Vous êtes sur RTL.
Vie vous attend évidemment. Bonjour Yves.
Grand merci à vous Julien, ainsi qu'à toute l'équipe des Petits Matins et bonjour à tous. Nous vous proposons ce matin une émission en cinémascope, Dolby Surround, grand écran. C'est la 46e cérémonie des Césars, vous pourrez la suivre dès 20h sur RTL. Avec une grande soirée spéciale, Stéphane Boutsock à l'Olympia, en studio Vincent Perrault et Dominique Besnéard. Le cinéma français veut oublier son année catastrophe et nous allons vous emmener dans les coulisses de cette cérémonie dès 7h15 avec Laurent Marsic. Stéphane Boutsock va lui faire le bilan de cette année couler et nous projeter dans l'avenir. Nous aurons enfin le plaisir d'accueillir l'invité surprise de cette 46e cérémonie, le comédien réalisateur Jean-Pascal Zadi. Vous ne connaissez pas son nom, mais sans doute son visage, et croyez-moi, vous ne serez pas prêt de l'oublier. Jean-Pascal Zadi est l'invité d'Alba à 7h40, Alba Ventura. Il est nommé ce soir pour le meilleur premier film et le meilleur espoir masculin pour son long métrage intitulé Tout simplement Noir. Et comme nous sommes obsessionnels sur RTL, Cyril Lignac, avec humour, va nous donner la meilleure recette de salade César juste avant 9h, nous sommes le vendredi 12 mars 2021. Bonne journée sur RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, l'Île-de-France, au bord du stade critique, la région submergée par les cas de Covid.
Recrudescence des contaminations, hôpitaux saturés, tous les indicateurs virent à l'écarlate. La région s'apprête à transférer des centaines de patients. Le phénomène des bandes, on l'a longuement évoqué ces derniers jours. Reportage ce matin auprès de ces jeunes qui décrivent une violence presque rituelle, un quotidien désormais rythmé par les bagarres. La gauche plurielle à la conquête des Hauts-de-France, écolos, socialistes et insoumis, tous unis derrière la même bannière. Et puis, Dacia frappe fort une nouvelle fois avec une citadine 100% électrique à moins de 13 000 euros prime déduite. Première livraison attendue en septembre.
La politique, Olivier Bost.
Marine Le Pen veut rassurer les Français, c'est elle qui le dit.
A tout à l'heure, dès la fin du journal.
RTL Matin.
Trois régions concentrent donc ce matin les inquiétudes du gouvernement. Les Hauts-de-France, PACA, mais surtout l'Île-de-France, où la situation sanitaire s'est considérablement aggravée ces derniers jours. Avec ce chiffre donné hier soir par Olivier Véran et qui, à lui seul, illustre l'ampleur de la vague actuelle à laquelle doit faire face la région parisienne.
Toutes les 12 minutes, un francilien, nuit et jour, est admis en lit de réanimation en Île-de-France. 1080 patients y sont pris en charge. Presque le pic de la deuxième vague.
Le pic de la deuxième vague, c'était fin novembre dans un pays qui était alors confiné. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Cette fois, pas de restrictions supplémentaires annoncées, mais des transferts de malades prévus dans les prochains jours pour tenter d'inverser la tendance.
Des dizaines et même des centaines de transferts dans les prochains jours, annonce effectivement Olivier Véran depuis les hôpitaux de l'Île-de-France. Des opérations spectaculaires, toujours en avion, hélicoptère, train, ambulance, qui nécessitent une préparation minutieuse et mobilisent beaucoup de personnel pour surveiller des malades très graves pendant leur transport. Les transferts, on sait faire, 1 000 000 depuis un an. La France en est d'ailleurs très fière, mais cela ne résout pas tout. Déjà, il faut trouver des hôpitaux hors de l'Île-de-France qui ne sont pas sous pression. Et pour Martin Hirsch, le patron de la PHP, 2 trains de 40 patients chacun permettent de gagner 3 à 5 jours, c'est tout. Ouais. Sans compter que pour les familles et les proches, voir partir des malades en état grave à l'autre bout de la France est toujours une très grande source d'inquiétude.
Ce qui interroge également Sophie ce matin, c'est que le nombre de cas et d'hospitalisation reste élevé mais stable, alors que la courbe des réanimations, elle, augmente en flèche. Expliquez-nous.
Des hypothèses plutôt que des certitudes. D'abord, les variants qui créent des formes plus graves. Les malades restent plus longtemps à l'hôpital, ils sortent moins vite de réanimation, les entrées se rajoutent donc et les courbes augmentent. Autre piste, de plus en plus de malades restent à la maison avec de l'oxygène et lorsque leur état s'aggrave, certains vont directement en réanimation sans passer par un lit d'hôpital classique. Les médecins se demandent aussi si les chiffres d'aujourd'hui en réanimation ne correspondent pas au pic de cas d'il y a 10-15 jours. Ils avancent une autre hypothèse. Le nombre de Covid attrapés à l'hôpital augmente. Des malades hospitalisés en chirurgie, par exemple, qui viennent soudain en réanimation sans apparaître auparavant dans les chiffres d'hospitalisation. Chaque vague est différente. La situation est inédite, difficile à comprendre. Et ce n'est pas la vaccination qui peut faire baisser les chiffres pour le moment, car les plus de 80 ans ne sont de toute façon pas admis en réanimation. La courbe va donc continuer à monter dans les prochains jours.
Merci Sophie Orange. À propos de la vaccination, justement, Olivier Véran s'est voulu rassurant sur le vaccin AstraZeneca, alors que le Danemark, la Norvège, l'Islande, la Thaïlande ce matin ont décidé d'arrêter d'administrer des doses après des problèmes de caillots sanguins. Il n'y a pas lieu en France de suspendre les injections, estime le ministre, qui rappelle qu'on parle là de 30 cas sur 5 millions de vaccinés. Notez enfin que l'Union européenne a donné son feu vert au 4e vaccin à dose unique, cette fois celui de l'américain Johnson & Johnson. Un boom sans précédent des naissances de jumeaux dans le monde. En 3 décennies, le taux a augmenté d'un tiers, plus d'1 600 000 paires de jumeaux, c'est comme ça qu'on dit, hein, naissent chaque année. Parmi les raisons invoquées, un plus grand recours aux techniques de PMA et une augmentation de l'âge moyen des mères.
RTL, il est 7h04. 2 mineurs mis en examen pour tentative de meurtre dans le Val-de-Marne.
Ils avaient participé en début de semaine à la violente bagarre entre bandes rivales, un affrontement au cours duquel 2 jeunes ont été grièvement blessés. L'un d'entre eux est toujours dans le coma. Ces rixes de plus en plus fréquentes, violentes également, nous les évoquons quasiment chaque semaine sur RTL. Nous avons cherché ce matin à comprendre ce qui pouvait en être à l'origine et vous allez l'entendre, les motifs sont parfois futiles. À Paris, la mairie a engagé des médiateurs pour tenter de calmer le jeu. Ils sont en permanence sur le terrain car le phénomène, ces derniers jours, a pris de l'ampleur, Mourad Djabari.
Les affrontements, oui, sont devenus presque une habitude, un rituel chaque semaine devant ce lycée, pourtant dans un quartier touristique.
Bonjour, Damien.
La dernière rixe, la semaine dernière, concernait plus d'une 50aine d'ados. Il y a eu des blessés, des interpellations, un couteau a été retrouvé. Alors, Tony et ses collègues médiateurs sont présents sur le terrain.
Il y a quelque chose qui va pas là.
Un attroupement d'une 10aine de jeunes de moins de 18 ans intrigue le médiateur.
D'accord, il n'y a rien. Vous gueulez comme ça. On a l'impression qu'il y a un embrouille, les gars. T'es au lycée là?
Non, moi je ne suis pas ici, moi.
T'es pas ici? Ah les gars, vous êtes 10 000 là? Vous attendez un pote ou pas?
Non.
Difficile de connaître l'origine de ces bagarres répétées, des affrontements entre quartiers, des différents amoureux.
Ici, quand tu t'impliques dans quelque chose, faut assumer jusqu'au bout. Ils veulent prouver devant les filles, les petites coquines. Nous, on n'a rien à prouver ici.
On fait que du pire.
Que du pire,
c'est que du pire.
Par exemple, nous, on est des mecs d'ici, hein. Mais jamais tu vas entendre, on a fait quelque chose ici. C'est que les gens des autres quartiers viennent faire des trucs ici parce qu'ils veulent prouver devant les filles.
Et t'as jamais participé à ce genre de rixes d'affrontement?
On fait plus ça, nous.
Quand on a un truc à le faire, on va jamais le faire ici, là. Parce que maintenant, un coup de couteau, ça va vite, hein.
Au Pinel 13, un couteau, ça c'est une longue lame, elle est comme ça, 13 cm.
13 cm.
Ça plante direct là.
Ça découpe, ça tranche.
Ils veulent venir ici parce qu'il y a du monde pour prouver, comme ça filme.
Merci les gars. Allez, protection.
Ces jeunes nous parlent de couteaux, d'Opinel, et ils nous disent qu'ils ne sont pas impliqués dans ces affrontements. Vous y croyez, Tony?
Non, il y en a qui font partie des rixes, évidemment. Sur 10, il y a au moins entre 8 et 7 qui ont participé aux rixes.
La présence des 3 médiateurs pendant plus de 2 heures, les ronds de policiers dissuadent et finissent par disperser le groupe. Un équilibre fragile. Aujourd'hui, Tony et son équipe seront de nouveau à la sortie du lycée.
Un reportage signé Mourad Djabari. Une information judiciaire ouverte après la mort d'un détenu à la prison de Meaux en Seine-et-Marne. C'était fin janvier. Ce prisonnier de 28 ans avait été transporté en arrêt cardiovasculaire à l'hôpital après avoir été maîtrisé par des surveillants. Il est décédé 8 jours plus tard. L'histoire d'un mort bien vivant à présent. Il s'appelle Robert. Il a 94 ans et vit à Rochefort en Charente-Maritime. Et il y a quelques jours, l'assurance maladie a décidé de l'enterrer, du moins dans ses fichiers. Résultat, gros souci à la pharmacie. Écoutez-le, racontez ses mésaventures.
Le 9 février, je me présente à la pharmacie pour renouveler mes médicaments. Le pharmacien me dit « Ah ben, votre carte est invalidée, carte vitale. » Et puis, ben, je reçois la lettre « Chère madame, cher monsieur ». Nous venons d'apprendre le décès de M. Robert Jacques. Dans cette épreuve, l'assurance maladie souhaite vous témoigner son soutien en vous informant sur les prestations. Ma pension était arrêtée. Je prends contact avec la CPM le lendemain. Et puis on me dit, bon ben, c'est un homonyme. Alors j'ai reçu mon extrait de naissance. Effectivement, il n'y a pas la mention décédé dessus. Je suis reconnu vivant. Imaginez-vous qu'à mon âge, on vous dit « ça y est, vous êtes mort ». Vous voyez un peu, là?
Oui, ça fait toujours bizarre.
Cher Robert, vous êtes en pleine forme et nous sommes heureux de pouvoir évoquer votre présence en vie sur RTL. La gauche tout entière réunie dans les Hauts-de-France pour tenter de battre Xavier Bertrand. On en parle dans un instant. À tout de suite.
RTL Matin.
7h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Tenter de faire renaître une gauche disparue dans les Hauts-de-France sous la pression de l'extrême droite, et ben c'est le pari de Karima Deli.
L'eurodéputé écolo se présente face à Xavier Bertrand et pour une fois avec une gauche unie derrière elle. Socialistes, insoumis, communistes, tous veulent éviter de reproduire le scénario de 2015. À l'époque, la gauche s'était retirée pour empêcher l'élection de Marine Le Pen. Marie-Bénédicte Allaire.
Cet accord inédit n'efface ni les rivalités, ni les divergences. Mais faute d'entente, la gauche et les écologistes risquaient d'être de nouveau absents du Conseil régional. Et pour l'écologiste Marine Tondelier, cette alliance fait renaître l'espoir.
J'entendais beaucoup quand on discutait avec certains camarades de gauche un peu désabusés. Bon, allez, on se met ensemble pour pouvoir être dans l'opposition cette fois-ci. Et souvent, avec Karima, on leur disait non, non. on y va pour gagner. Et ils nous regardaient un peu comme des hurluberlus. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que les gens se prennent à y croire.
En 2015, Marine Le Pen arrivait en tête au premier tour. Élue grâce au retrait de la gauche, Xavier Bertrand a gouverné sans elle pendant 6 ans, ce qui finalement a facilité les discussions, explique Hugo Bernalicci de la France Insoumise.
On va pouvoir maintenant rentrer dans la campagne concrètement et puis aller contester le sortant qu'est Xavier Bertrand et le Rassemblement National avec Sébastien Chenu. Donc c'est notre responsabilité aussi d'être à la hauteur de ces enjeux.
Et cette fois-ci, même minoritaire, la gauche se maintiendra au second tour.
Marie-Bénédicte Allaire. La CGT en colère contre la direction de Renault, le constructeur qui va mettre en vente la fonderie de Bretagne à Caudan dans le Morbihan. 350 emplois concernés. La marque Lausanne cherche un repreneur. Décision prise dans le cadre de son plan d'économie de 2 milliards d'euros.
Il est 7h10. Renault qui fait des économies, Dacia qui innove avec un nouveau modèle qui pourrait enfin démocratiser la révolution électrique.
Voici venue la Spring, la citadine 100% électrique de la marque. Autonomie très convenable, design assez réussi, mais surtout un prix qui défie toute concurrence. 12 400 euros, prime déduite. Christophe Bourreau a testé pour nous.
Une fois à l'intérieur, pas de doute, je suis bien dans une Dacia, pas de bling bling, la Spring va à l'essentiel. Mais pour le prix, il faut dire qu'elle en offre déjà beaucoup, avec vitres et rétroviseurs électriques, régulateur de vitesse, 6 airbags, elle ressemble à un petit SUV dynamique au volant.
Voilà, vous l'entendez, dès qu'on met le pied sur l'accélérateur, elle réagit tout de suite comme une vraie voiture électrique, il n'y a pas de doute, même si ensuite elle est limitée, puisque sur autoroute, vous ne pouvez pas dépasser les 125 km/h.
Car pas besoin pour Dacia de proposer une Formule 1, les 230 km d'autonomie sur route et un peu plus de 300 en ville peuvent satisfaire de nombreux clients, selon Denis Levotte, directeur général de la marque.
L'usage urbain des voitures en général en France, c'est plutôt 30 km par jour. Il y a beaucoup de clients qui utilisent leur voiture 30 km par jour, qui adoreraient acheter évidemment une voiture électrique pour ça, mais qui nous disent mais je peux pas, c'est beaucoup trop cher.
Là, le prix est imbattable. La Spring est en effet vendue environ 8000 euros de moins que les concurrentes et encore les plus abordables.
Christophe Bourreau.
Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Anguin-Soisy.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 4, le 3, le 8, le 12, le 6. Hélas, la dernière minute, c'est le 8 Dexter Desbeaux.
C'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h12. La politique avec Olivier Bosse. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Marine Le Pen se recentre politiquement pour rassurer les Français.
Oui, l'analyse est très simple. Hein. Marine Le Pen n'a plus qu'un obstacle, et pas des moindres. C'est un chiffre. 64% des Français excluent toujours de voter pour elle dans un sondage Elab tout frais réalisé cette semaine. Alors oui, effectivement, elle veut rassurer les Français. Ce n'est pas un commentaire de ma part, c'est Marine Le Pen qui l'a dit hier soir sur BFM. Et pour rassurer les Français, elle opère quelques virages à 180 degrés. La candidate du Rassemblement National ne veut plus sortir de l'Union européenne, ne plus abandonner l'euro, elle veut même rembourser la dette. Ah bon ? Il n'est plus question de la retraite à 60 ans, mais de 40 ans d'annuité. Une question de crédibilité, tout ça, assure-t-elle.
Tout ça, c'est nouveau, justement ?
Alors, c'est récent. L'un de ses proches explique quand vous êtes à 40% d'intention de vote, vous n'avez pas les mêmes attentes qu'à 15. Marine Le Pen ne ferait donc que s'adapter à sa nouvelle position. Ne parlez surtout pas de reniement. Il n'y a jamais d'incohérence au Rassemblement National. D'ailleurs, Marine Le Pen considère que toute l'actualité valide ses choix sur les frontières, sur le commerce mondial, sur l'insécurité. Aucune de nos idées ne sont minoritaires chez les Français, assure l'un de ses stratèges. Et il prévient, ça ne va pas être évident de nous attaquer.
Vous voulez dire que le Rassemblement National est devenu très confiant ?
Ah oui, l'état d'esprit a changé, c'est l'effet des sondages. Hein, le fameux second tour à 46 ou 47% face à Emmanuel Macron. La possibilité d'une victoire de Marine Le Pen galvanise clairement son entourage. D'ailleurs, elle l'a assuré hier soir sur BFM, je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. C'est l'effet sondage et la méthode Coué en même temps. Une assurance qui inquiète d'ailleurs dans la majorité chez En Marche, qui hésite sur la stratégie pour la contrer. Faut-il banaliser Marine Le Pen pour que ses partisans les plus fervents la trouvent trop molle, comme le disait Gérald Darmanin? Ou faut-il continuer d'attaquer l'héritière du Front National, la diaboliser, sans laisser penser, c'est l'autre piège, qu'ils n'attendent qu'une chose, ce duel face à Marine Le Pen?
Alors Marine Le Pen, elle aussi, hein, elle prépare déjà le second tour?
Et oui, et c'est le reproche que lui a fait bien justement son père, Jean-Marie Le Pen, dans une vidéo hier. Il faut d'abord assurer le premier tour, lui explique-t-il. Autrement dit, ce recentrage est trop précieux. précoce. Ce n'est pas le calcul de son entourage. Ce n'est pas en 15 jours, entre les deux tours, que Marine Le Pen peut corriger le tir. Sur l'économie, son nouveau positionnement est encore fragile. Un proche d'Emmanuel Macron est confiant. Face à lui, en débat, elle se ferait encore étriller, assure-t-il. Il faut donc bien un an à Marine Le Pen pour rassurer les Français, comme elle le dit elle-même.
Merci beaucoup, Olivier Bost. Sachez que dimanche à midi, c'est Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, qui sera l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Il sera interrogé par Benjamin Sportouche. Dimanche donc, à partir de midi. Dans un instant, notre brigade de l'actualité nous éclaire sur la cérémonie des Césars. Laurent Marsic a pu assister aux toutes dernières répétitions et Stéphane Boutsock va projeter pour nous la réouverture des salles obscures.
RTL Matin.
La 46e cérémonie des Césars.
Avec Yves Calvi.
Célébrer le cinéma malgré tout, ce soir en direct de l'Olympia à Paris se déroulera donc la 46e cérémonie des Césars du cinéma français. Une cérémonie à suivre en direct sur RTL. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez assisté aux répétitions de la cérémonie dans une salle placée sous très haute surveillance médicale.
Exactement, venez, je vous emmène. Nous voici côté entrée des artistes, près de l'Olympia, sous une tente. Première étape médicale, lavage des mains obligatoire, mais aussi prise de température.
Super, super parfait, on vous laisse juste un petit ticket pour entrer.
Alors, ça, c'est pour vous déplacer, et les masques pour vous protéger.
Agnès Jude, la directrice des opérations spéciales de Canal+.
On a mis en place un protocole sanitaire extrêmement strict. On a fait en sorte qu'il y ait un médecin référent Covid avec toute une organisation. Et le soir de la cérémonie, en fait, on demande à tous les nommés qui entreront dans l'Olympia de fournir la preuve d'un test PCR datant de moins de 48 heures. Et ils sont à nouveau testés antigéniques avant d'entrer dans l'Olympia.
Après avoir suivi un parcours fléché au sol, nous voici devant la scène.
Ok les amis, on se met en place, on va répéter la séquence 20. S'il vous plaît.
Il ne reste que quelques rangées de fauteuils. Une place sur deux a été neutralisée et la salle a été adaptée. Tristan Carnet, le réalisateur des Césars.
On a adapté, donc on a gardé évidemment l'espace, la distanciation nécessaire. Donc on a enlevé des fauteuils, qu'on a remplacés par des guéridons pour éviter d'avoir des trous noirs sur lesquels on a mis des petites lampes, histoire d'habiller un peu la salle. Et ne seront donc dans la salle présents que les nommés.
Soit environ 150 personnes. L'espoir, c'est que cette cérémonie marque le coup d'envoi à la réouverture des salles de cinéma. C'est en tout cas ce que dit Virginie Efira, qui s'apprête à répéter et qui remettra un César.
Le cinéma résistera, se réinventera, et peut-être que cette cérémonie, même certainement, je ne sais pas pourquoi je dis peut-être, en est la première représentation festive et joyeuse.
Amis cadreurs, on se moque, masque, s'il vous plaît.
Derrière les 14 caméras, des cadreurs masqués, Marina Foïs, la maîtresse de cérémonie, est plutôt concentrée sur scène. Elle teste et corrige les textes qui ont été écrits avec Laurent Lafitte et Blanche Gardin, les deux auteurs des Césars.
Alors on va changer, puisque vous aimez bien les changements.
Le protocole sanitaire ne s'arrête pas là. Au moment où le gagnant monte sur scène, pas question de lui donner en main propre le César. Et Virginie Efira, en répétition, va en faire l'expérience.
Juste, je ne donne rien, je n'embrasse certainement pas cette personne.
Certainement pas.
Ok. Félicitations.
D'accord.
Voilà.
On les écoute avec plaisir, non ? Marina Foïs, la maîtresse de cérémonie, nous disait ici même il y a 15 jours qu'elle souhaitait que cette cérémonie soit une kermesse. Pour ce que vous en avez vu, Laurent, est-ce que ce sera le cas ?
Oui, c'est le cas. L'humour s'invite assez régulièrement dans cette cérémonie, même si, comme l'explique une des remettantes et anciennes maîtresses de cérémonie, Valérie Lemercier, il est important de ne pas verser ce soir-là dans le tout décalé.
Moi, je pense que c'est comme une réunion de famille. C'est bien de ne pas tout tourner en dérision, parce qu'il y a quand même des prix et il y a quand même des gens pour qui c'est important.
Nous allons à présent remettre le César du meilleur long métrage d'animation.
Je suis contente aussi qu'elle ait remis les pupitres. Je trouvais les gens un peu nus à venir comme ça, devant rien, de n'avoir rien pour se protéger.
Visuellement, un écran géant en fond de scène a été installé avec des extraits de films qui vont défiler pendant toute la soirée. Parfois animé, parfois en image arrêtée, et puis vous l'entendez derrière moi.
Ok, pour la musique, si vous êtes prêts, on y va dans 5.
Il y a un retour, et pas des moindres, celui de l'orchestre et la musique en direct, comme au temps du big band de Claude Bouling. À la baguette, mais pas seulement, Benjamin Biolay.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo. Vieille photo de ma jeunesse.
La seule présence et la seule voix de Benjamin Biolay donne envie d'assister à cette soirée. Merci beaucoup Laurent Marsic de nous avoir fait visiter ces coulisses. On retrouve un autre membre de notre brigade, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Nos salles de cinéma devraient, on l'espère, assez vite rouvrir. Tiens d'ailleurs, a-t-on une idée de la date?
Alors je vous parlerai plutôt d'une fourchette. Oui. Les distributeurs ou producteurs avec qui j'échange table sur fin avril, ça c'est pour les plus optimistes et plus vraisemblablement début mai. Ce qui semble acquis, c'est que les films programmés pour les vacances de Pâques vont bouger. OSS 117, par exemple, est à ce jour encore programmé au 14 avril, tout comme Raya et le dernier dragon de Disney. Il devrait rapidement changer de calendrier.
À force de modifier ces dates, il va y avoir un embouteillage sur les écrans, non ?
400 films attendent sur les étagères ou dans les ordinateurs. 250 français, 150 étrangers. Films non sortis, auxquels s'ajoutent ceux qui ont été diffusés quelques jours seulement en octobre, avant le deuxième confinement, comme ADN de Maïwenn, qui est resté 48 heures à l'affiche. Elle, comme d'autres, voudra retrouver sa place. Bah, c'est légitime, hein. Mais en effet, ça va coincer. Chaque semaine normale, une quinzaine de nouveautés sortent au cinéma. Moins de la moitié trouvent leur public. Si on passe à 20 ou 25, ça devient la folie.
Quelle est la solution ?
Certains films ont été vendus aux plateformes. Netflix et Amazon sont très en appétit. Les grosses productions, elles patientent. James Bond, Fast and Furious ont basculé sur l'automne, voire à 2022. Et en France, Aline de Valérie Lemercier qu'on entendait, Kaamelott d'Alexandre Astier ou Les Tuches 4 attendront la rentrée et l'hiver pour sortir. Tous ont besoin de public pour se rembourser. Et puis sur le fond, ils sont faits pour le grand écran.
Alors pendant ce temps, est-ce que les tournages ont levé le pied ?
Pas du tout. Ils ont pu se poursuivre depuis octobre pour ce deuxième confinement. Le rythme est intense, films d'auteur ou grosses productions, on tourne beaucoup, mais on remarque que la priorité est donnée à des films populaires, spectaculaires, qui donneront envie au public de revenir en salle quand ça sera possible.
Alors reste une grande question justement Stéphane, dans quelles conditions retournerons-nous au cinéma ?
Avec d'infinies précautions, un protocole sanitaire encore renforcé et surtout une limitation d'accès. Si je prends l'exemple des salles américaines qui viennent de rouvrir à New York par exemple, la jauge est à 25% de public seulement, impossible d'acheter des confiseries, source de revenus importante pour les exploitants. Donc oui, ça va rouvrir, mais ça ne sera pas rentable au début.
On ira donc au cinéma, mais pas pour le pop-corn.
Exactement.
Si je vous ai bien suivi. Merci infiniment Stéphane. On vous retrouve ce soir dès 20h pour suivre cette 46e cérémonie des Césars sur RTL. En partenariat avec Canal+, vous serez le seul journaliste radio présent à l'Olympia pour nous faire vivre la soirée, les réactions des lauréats. Et puis ici en studio à Neuilly, Vincent Perrault sera lui en compagnie de Dominique Besnéard. Merci d'être fidèle au rendez-vous comme chaque année.
À tout à l'heure dans Laissez-vous tenter.
À tout à l'heure dans Laissez-vous tenter. On va continuer à évoquer les Césars, mais avec la pépite musicale d'Anthony Martin dans un instant.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est grand temps de retrouver notre pépite. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
De quoi s'agit-il aujourd'hui ?
Alors, on reste dans le cinéma. Oui. Chaque année, la cérémonie des Césars offre un moment musical souvent surprenant. En 2016, pour célébrer les 30 ans des trois Césars du film Subway de Luc Besson, on a entendu sur scène la chanson phare du film, It's Only Mystery. Ce morceau, à l'origine interprété par l'Américain Arthur Sims, a remporté un immense succès en 1985, en même temps que le film. La chanson a été composée par le complice de Luc Besson, Eric Serra. Sa partition est d'ailleurs très largement inspiré dans les couplets du morceau « I Can See Clearly Now » de Johnny Nash. Et pendant la soirée des Césars de l'année 2016, c'est la chanteuse Christine and the Queens qui était apparue sur la scène du Châtelet pour livrer sa version de ce tube. C'est notre pépite du jour. Christine and the Queens interprète « It's Only Mystery ».
It's only mystery. We'll be right back.
par Christine and the Queens. Alors pour les paroles, le musicien Eric Serra devait au départ travailler avec une américaine qui lui a fait faux bond. Il a donc appelé à la rescousse à la dernière minute sa compagne de l'époque, qui n'était autre que Corinne Marieno, la bassiste du groupe Téléphone.
Ah bon ?
Et oui, et c'est elle qui a écrit le texte de la chanson en une nuit, après avoir lu le scénario du film Subway.
Bah alors là, vous m'apprenez quelque chose.
À la scène des Césars.
Oui, je précise que Corinne Marieno n'a rien à voir avec Luis Mariano.
Non, ça, je vous confirme, ce n'est pas la même orthographe.
Ce n'est pas la même orthographe, je crois qu'il fallait mettre les choses à plat. Voilà, je vous remercie beaucoup, Anthony. On se retrouve lundi pour une nouvelle série de pépites musicales à tout moment et en podcast via l'appli RTL. Je ne sais pas ce qu'on a ce matin, ça doit être les Césars. On est rieurs, il y a une espèce de, voilà, de petit vent de folie, ça nous fait du bien aussi de respirer. Les Grosses Têtes vous donnent rendez-vous chaque après-midi de 15h30 à 18h. Ce sera dans un instant avec quelques fake news, bien entendu, et avec grand plaisir.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Les Grosses Têtes qui vous donnent rendez-vous, dois-je vous le rappeler, tous les jours dès 15h30 sur RTL. Je vois que Louis Bonin est d'accord.
Oui.
Voilà. Et vous savez ce qu'ils vont nous proposer là?
Quelques fake news. Pour ne pas changer,
c'est notre bonheur. Du magazine Rire et Chansons, dans un article page 12, il ne fallait pas lire que le chanteur Doc Génico faisait son retour dans les bacs, mais à la bac.
Christine Bravo ensuite.
Après le succès de l'interview de François Hollande par Samuel Etienne dans Twitch, Julien Lepers va interroger Giscard sur toujoursplusringard.com.
Jean Castex parlera dimanche à 18h sur Twitch. D'habitude, il parle le jeudi à 18h. À l'Élysée, on surnomme déjà Jean Castex le coucou de Twitch.
C'est vrai que quand il parle, il est 18h. Moi, maintenant, je règle ma montre. Regarde ta montre, il est 18h. Voici Jean Castex.
Laurent Ruquier vous donne rendez-vous de 15h30 à 18h aujourd'hui avec Isabelle Mergaud, Caroline Diamant, Marcella Yacoub, Christophe Beaugrand, Éric Logérias et Jean Benguigui. Bonjour Louis Bonin.
Bonjour Yves.
Notre météo, s'il vous plaît.
Eh ben aujourd'hui, on va appeler ça régime d'averse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on aura alternance entre des éclaircies très belles le matin et puis des passages nuageux de plus en plus fréquents l'après-midi, accompagnés d'averses. Alors ces averses, en ce moment, on les a près de la Manche, on les a dans le sud-ouest, entre les Pyrénées et le Massif central. Et cet après-midi, nous les aurons partout ou près. Avec toujours donc quelques éclaircies au milieu de ces précipitations. Des averses parfois accompagnées d'orages entre le Val-de-Loire, l'Île-de-France et la frontière belge. Parfois accompagnées de neige dans les Alpes du Nord où le risque d'avalanche va revenir parce qu'effectivement il a neigé cette nuit et il va neiger encore tout au long de la journée. De la neige attendue sur le Massif central, sur les Vosges ou encore les Pyrénées. Il n'y a que tout près de la Méditerranée où le ciel restera un peu plus calme, un peu plus clément. Parce que dans les autres régions au milieu de ces averses, il y aura aussi des rafales de vent atteignant les 90 km/h au moins sur la moitié nord, le tout avec des températures en baisse, alors pas encore de gelée en pleine ce matin, 10 à 12 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 12 à 14 dans le sud-ouest et 15 à 16 degrés près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Bonin, bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30 tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 12 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord, mission Astérix. Astérix, c'est le tout premier exercice militaire spatial français. Il est mené en ce moment même au-dessus de nos têtes depuis le début de la semaine. Et pour l'occasion, Emmanuel Macron se rend cet après-midi au Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. L'objectif, c'est de voir si nous sommes capables de protéger nos satellites. C'est un peu la guerre des étoiles, Brice Dugénie.
Comme pour un exercice sur Terre ou en mer, le scénario prévoit des menaces, des tentatives de déstabilisation, voire la destruction de satellites français par une puissance ennemie. Face à cela, le commandement de l'espace créé il y a un an à Toulouse, a donc pu tester ses capacités de réaction, changer rapidement l'orbite d'un satellite menacé, analyser des débris susceptibles d'endommager d'autres installations, voire de retomber sur le territoire français, ou encore prévoir en urgence l'envoi dans l'espace d'un nouveau satellite pour retrouver les capacités détruites. La France montre qu'elle sait défendre ses satellites, si importants aujourd'hui, et le message s'adresse aux autres puissances actives dans l'espace, notamment les Russes et les Chinois. En 2017, un équipement russe s'était approché d'un satellite français pour tenter de l'espionner. Et l'année dernière, Washington a accusé Moscou de mener des tests d'armes anti-satellites. D'ici 10 ans, la France espère se doter de satellites patrouilleurs à l'aide de caméras et de lasers. Ils auront pour mission d'observer l'espace et de protéger les équipements français.
Brice du génie du service étranger d'RTL.
Nous avons donc désormais un commandement de l'espace, vous l'avez bien entendu. Sur le plan sanitaire, alerte rouge en Île-de-France.
On compte actuellement plus de 1000 patients Covid en réanimation. Un francilien est admis en réa toutes les 12 minutes, c'est ce que dit le ministre de la Santé. Et à ce rythme, le seuil critique des 1500 sera atteint à la fin du mois. Pour éviter la saturation, on va continuer à déprogrammer des opérations de façon massive. Et Olivier Véran annonce aussi des transferts de patients.
D'ores et déjà, nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions qui pourraient avoir lieu dès cette fin de semaine. Quand je dis important, c'est qu'on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Île-de-France vers d'autres hôpitaux, d'autres régions du territoire national.
Olivier Véran, alarmiste sur la situation en Île-de-France, mais rassurant sur le vaccin AstraZeneca. Certains pays comme le Danemark et la Norvège ont suspendu son utilisation par précaution car on évoque la formation de caillots sanguins. Pourtant, l'Agence européenne du médicament estime qu'il n'y a pas de problème et c'est aussi le sentiment de Jacques Battistoni, président de MG France, le premier syndicat généraliste.
Pas de panique. Quand on vaccine beaucoup de gens en même temps, il continue à se passer des choses dans cette population comme si elle n'avait pas été vaccinée. Il y a tous les jours un certain nombre de personnes qui présentent des infarctus, des accidents, et tout ça n'est pas lié au vaccin. Ce vaccin, il assure une excellente protection. On l'a vu, il évite notamment de faire des formes graves. Je crois que tous les gens qui ont pris un rendez-vous doivent maintenir leur rendez-vous et venir dans nos cabinets se faire vacciner.
Propos recueillis par Odile Pouget. À ce jour, 4,5 millions de Français ont reçu au moins une injection anti-Covid et ils disposeront bientôt d'un quatrième vaccin puisque le Johnson & Johnson a été validé hier par l'Europe. Son grand avantage, c'est qu'il ne faut qu'une seule dose. Notez qu'à Béziers, un jeune homme vient d'être condamné à 3 mois de prison ferme. Il avait été interpellé 4 fois en moins d'un mois pour violation du couvre-feu. Et puis, si vous prévoyez de faire une grande fête quand nous en aurons terminé avec les couvre-feux et les confinements, c'est le moment de vous faire un stock de bouteilles. En effet, OBD Grand Paris, le leader de la distribution de boissons aux professionnels, se retrouve avec de gros stocks puisque les bars et les restaurants sont fermés. Et il organise un grand week-end de braderie aujourd'hui et demain à Morangis dans l'Essonne. 20 000 bouteilles à saisir, précision du directeur général Pascal Clément.
Je pense qu'il y a des intelligences partout, qu'il y a du patriotisme à droite comme à gauche.
Petit souci. Évidemment, ce n'est pas Pascal Clément, le président de MG France, le président de OBD Grand Paris, qui est donc le leader de la distribution de boissons. Au chapitre politique, c'est l'union sacrée pour les régionales dans les Hauts-de-France. Les Verts, les communistes, les insoumis et les socialistes se rassemblent derrière l'eurodéputé écolo Karima Deli. Il s'agit de faire barrage au président sortant Xavier Bertrand. Le rassemblement, c'est aussi le mantra de Marine Le Pen pour la présidentielle. La présidente du RN indique que si elle est élue, elle souhaite composer un gouvernement d'union nationale.
Je pense qu'il y a des intelligences partout, qu'il y a du patriotisme à droite comme à gauche. Je souhaite faire un gouvernement d'union nationale. C'est mon vœu le plus cher parce que c'est ce qui permettra de présenter aux Français l'unité nécessaire autour d'un projet politique.
Marine Le Pen chez nos confrères de BFM TV hier soir. Renault va vendre la fonderie de Bretagne. L'usine de Caudan dans le Morbihan emploie 350 personnes à la fabrication de pièces pour les moteurs et les boîtes de vitesse. Mais les commandes ne seraient plus assez importantes. Le constructeur a même commencé à délocaliser vers la Turquie et l'Espagne. Une attitude déplorable selon Jean-Michel Jacques, député En Marche du Morbihan.
Renault a reçu de l'État pour aider sa filière, 8 milliards d'euros. Il faut qu'il y ait cette notion de redevabilité. C'est une usine qui a été refaite récemment suite à un incendie. Renault a profité de ce moment-là pour délester un certain nombre de tonnages vers la Turquie et l'Espagne. Ils ont commencé à sortir des chiffres en disant « ben voilà, l'usine ne tourne pas assez ». C'est une attitude qui est inadmissible et je demande à Renault d'avoir une attitude beaucoup plus respectueuse par rapport au peuple français et à ses élus.
Un propos recueilli par Valentin Boissé. Aux États-Unis, premier discours de Joe Biden depuis son investiture. Le président américain se félicite des progrès de la campagne de vaccination. Il espère un retour à la normale pour la fête nationale le 4 juillet. Et puis au rayon sport, sachez que le Paris-Nice n'arrivera pas à Nice. Le parcours va être adapté pour les deux dernières étapes, car le littoral des Alpes-Maritimes reste confiné ce week-end. C'est toujours le Slovène Primoz Roglic qui est en jaune. J'avais envie ce matin de fêter aussi un anniversaire. Liza Minnelli a 75 ans aujourd'hui.
Cette journée de César, ça tombe très bien. Merci beaucoup. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la une, Isabelle Choquet.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
7h36, le CAC 40 bat des records, les 6000 points sont dépassés.
Oui, il y en a qui attendent le printemps en regardant percer les crocus, moi c'est le CAC 40, oui. Alors c'est vrai que les pertes de l'an passé sont compensées, on a effacé la crise Covid, mais vous allez voir qu'il y a des gagnants et des perdants.
A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
C'est la fête à la bourse, le CAC 40, indice des entreprises de vedettes françaises, rappelons-le, a passé hier le seuil des 6000 points.
Oui, et le franchissement de ce seuil marque une autre étape. Les pertes de la crise Covid ont été intégralement effacées.
Incroyable.
La dernière fois que le CAC était à ce niveau, c'était juste avant le déclenchement de la crise sanitaire, il y a un an. Avait alors commencé une purge violente qui a fait chuter le CAC jusqu'à 3700. Bon, ça fait moins 40% en quelques jours. Il a fallu 10 mois pour remonter la pente. Alors, l'indice, ça n'est qu'une moyenne. Derrière son retour à 6000, il y a eu des changements très importants pour les différentes valeurs.
C'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants comme dans l'économie.
Oui, c'est ça. Les gagnants, le luxe, Hermès, plus 43% sur la période. LVMH, 36%. Et les perdants, Danone, moins 22%. Orange, moins 22 aussi. Airbus, moins 24. Vous voyez qu'au sein de cet indice de 40 entreprises, il y a des destins boursiers très divergents. Selon les performances, mais aussi selon les modes boursiers, ça compte également.
C'est le record, 6000 points pour le CAC 40 ?
Non, il a été au plus haut le 4 septembre 2000. C'était son record absolu, 6922 points, juste avant l'explosion de la bulle Internet. C'était en 1988 qu'il a été créé, en fait. Il valait alors 1000 points. Ça veut dire qu'il a été multiplié par 6 en 32 ans, alors que dans le même temps, le PIB, l'économie française, elle a été entre 2 et 3 fois moins vite que le CAC.
Alors justement, expliquez-nous ce décalage entre la valeur des entreprises à la bourse et puis celle de l'économie réelle.
Y a deux explications. La première, c'est que les grandes entreprises françaises, cotées, se sont mondialisées sur cette période. Nos champions ont donc vu leur chiffre d'affaires progresser bien plus vite que la France, grâce à leur internationalisation. En 1989, c'est la chute du mur, par exemple. De nouveaux marchés s'ouvrent, et puis aussi des terres de délocalisation, il faut le dire, qui ont permis à nos entreprises de faire fabriquer là où c'est moins cher. C'est aussi à cette époque que les marchés émergents décollent, la Chine en particulier, qui va connaître des croissances à deux chiffres. L'autre raison, c'est que la composition de l'indice varie sans cesse. La comparaison sur 30 ans, elle n'est donc pas très rigoureuse.
Ça veut dire que la composition de l'indice n'est pas la même qu'au début, en fait.
C'est vrai, c'est vrai. En fait, il y a des sociétés différentes d'alors et leur poids dans l'indice varie. Aujourd'hui, c'est LVMH, la plus grosse entreprise du CAC. Elle vaut 285 milliards.
Ouf.
Lors de la création du CAC en 1988, la première, c'était un pétrolier, Elf Aquitaine, absorbé depuis par Total. Et puis lui a succédé, dans les années 90, Alcatel-Alstom, aujourd'hui englouti, absorbé en partie et par Nokia et par General Electric. Puis France Télécom, c'est l'ancien nom d'Orange pendant la bulle Internet, bientôt dépassé par Total, le tenant du titre le plus résistant, qui a lui-même été dépassé par le numéro 1 du luxe, LVMH. À travers les fortunes et infortunes du CAC, on retrace toute l'évolution de l'économie. Mais il faut garder le sens des proportions. Apple, le constructeur informatique américain, vaut à lui seul quasiment autant que la totalité des entreprises du CAC 40, 2000 milliards de dollars, c'est-à-dire 1700 milliards d'euros.
Tout cela est passionnant, merci beaucoup François Langlais. On vous dit à lundi, cher François, et d'ici là, sur l'application mobile et notre site rtl.fr, pour le hors-série de Langlais Co avec Catherine Mangin, vous vous interrogez sur le commerce du monde d'après. Le e-commerce va-t-il remplacer notamment les commerces physiques ? Podcast gratuit à retrouver sur toutes les plateformes. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin ?
Jean-Pascal Zadi, acteur, réalisateur. Son film Tout simplement noir a connu un très beau succès cet été entre de confinement. Et cela lui vaut deux nominations au César. Ce soir, meilleur premier film et meilleur espoir masculin.
A tout de suite avec votre invité sur RTL.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi.
Bonjour Jean-Pascal Zadi.
Bonjour.
Alors Tout simplement noir, c'est l'histoire de JP, un homme noir qui veut organiser une manifestation communautaire, une marche des noirs, et qui tente de rallier plusieurs personnes de sa communauté à sa cause, et ça ne va pas être simple. Une histoire que vous avez choisi de traiter avec beaucoup d'humour. On va y revenir, Jean-Pascal Zadi.
Okay.
Le film est sorti après le premier confinement, en juillet. Ça a été l'un des plus beaux succès de l'été. Plus de 700 000 entrées, vous vous attendiez à ça ?
Franchement, non. On ne peut pas s'attendre au succès, même si on savait qu'on avait fait un film pas mal. Mais franchement, le succès, non, on peut pas savoir. C'est impossible de prévoir le succès, franchement. Sinon, t'as la grosse tête.
Et vous vous dites que vous avez été chanceux parce que vous êtes passé au milieu de...
Ouais. Non, franchement, on se dit quand même qu'on a été chanceux parce que déjà, la date de sortie au départ, c'était le 15 avril. Uh-huh. Et après, quand il y a eu le confinement, on a dit tout de suite, dès les premiers jours du confinement, on a dit, bon, on le sortira le 8 juillet sans savoir que les cinémas allaient réouvrir et tout, à quel moment. Et donc, quand on est sorti une semaine après la sortie. Et du coup, on a eu de la chance parce qu'on a vu qu'après, quand les cinémas sont refermés, tout ça, c'était galère pour beaucoup de films, quoi.
C'est ça, en ce moment, Ça tourne, mais ça ne sort pas.
Ouais.
Quand les salles vont rouvrir, il va y avoir énormément de films. Ah, Stéphane Boutsock disait 400 au total, 250
français. Ça va être ouf, ouais.
Ça va être un problème, parce que on va pas pouvoir tout voir.
On va pas pouvoir tout voir, mais en tout cas, je trouve qu'au moment où le film Tout Simplement Noir est sorti, je pense qu'on est sorti malgré tout à une bonne date, parce que j'ai l'impression qu'en vrai, le cinéma, c'est fait pour divertir les gens quand ça va mal. Et à l'époque, on était un peu stressés, je sais pas si vous vous en rappeliez, mais si vous en rappelez, on savait pas trop ce que c'était le coronavirus, les gens, ils se regardaient chelou dans la rue, c'était un peu stressant. Et là, nous, on sort notre film, et donc on a pu divertir les gens, moi, franchement, la sortie le 8 juillet, je trouve que c'était une bonne date. Et après, là, voilà, quand les cinémas vont réouvrir, franchement, je sais pas comment ça va se passer. Ça va être la foire d'Empoigne, mais ça va être super parce que on pourra avoir
tous
les goûts, quoi.
Voilà. Ça vous met en colère la fermeture des salles. Est-ce que, comme Marina Foïs, vous dénoncez la violence du gouvernement qui dit-elle classe la culture comme non essentielle? Ça vous met en colère? Comme elle?
Que les cinémas soient fermés. Ah là là, j'aimerais bien dire que que ça me met en colère, mais. En fait, moi, je comprends les gens qui disent que, écoute, il y a d'autres priorités, il y a d'autres choses. Tu vois, le cinéma et le divertissement, c'est hyper important. Ça fait partie de notre vie, la culture, tout ça. Mais tu vois, là, on parle de mort, on parle d'hôpitaux saturés, on parle de plein de choses. Et voilà, t'as vu, on adore la vie, on adore le cinéma. Mais si on n'ouvre pas les cinémas, franchement, moi, je me dis, j'ai l'impression de niquer l'ambiance.
Franchement,
je me dis que, franchement, c'est vrai que je comprends la colère de certains, je suis d'accord, c'est hyper relou, mais voilà, ça va réouvrir.
Le succès du film, ça vous a ouvert des portes?
Ça m'a ouvert voilà les portes. Au départ, j'étais un pestiféré, genre je rentrais dans les endroits, personne voulait de moi et tout. Et aujourd'hui, les gens m'appellent, on veut travailler avec moi, on m'envoie des scénarios pour être acteur, on me propose de l'argent, beaucoup d'argent. C'est franchement, ça fait bizarre quoi. Mais je suis pas du.
Qu'est-ce qu'on vous propose, Jean-Pascal?
Ouais, il y a beaucoup de bouse. Je veux pas mentir. Il y a beaucoup de bouse, mais j'essaierai de faire ce que j'aime et d'être honnête envers moi-même et de pas essayer d'être partout. Parce que pour exister, quoi, j'ai mis 40 ans à faire mon premier film. Tu vois, c'est pas pour après vouloir être partout parce qu'on me demande tout ça. J'essaierai d'avoir ma ligne conductrice, tu vois. Et puis l'argent, ça viendra.
Jean-Pascal Zadi, l'an dernier au César, il n'y avait pas seulement eu la polémique Polanski, il y avait eu aussi ce discours très engagé d'Aïssa Mayaga sur la diversité, la représentativité dans le cinéma. Pendant son discours, elle avait même jeté un froid. Elle dit « J'ai compté dans la salle sur près de 1600 personnes, il y a 12 noirs
».
Ça vous a aidé ce discours très engagé?
Oh non, mais j'étais déjà dedans avant que Aïssa Maïga fasse son discours. Mais moi, je suis vraiment pour, l'inclusion, mais partout. C'est pas, comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on va mettre deux noirs dans Joséphine Ange Gardien que la situation va s'améliorer. Mmh. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit dans toutes les strates de la société, c'est-à-dire au CNC, dans la production, dans les bureaux, tu vois.
Ouais.
Faire des trucs de façade, moi, personnellement, si c'est pour en plus reproduire les mêmes schémas, tu vois, contre lesquels on se bat, les clichés, tout ça, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être infiltré partout comme des espions, quoi.
Mais Tout Simplement Noir, c'est un film pour dire justement que c'est pas simple d'être noir en France?
Oui. C'était juste aussi pour essayer de un peu plus complexifier le discours un peu réducteur qui simplifie un peu les trucs, qui dit les noirs, les blancs, tout ça. Juste essayer de montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça et que finalement les noirs, les blancs, tout ça sont des constructions qui ont été faites depuis des siècles et aujourd'hui il n'y a plus de raison de réfléchir comme ça et qu'on est tous français, on veut tous la même chose, on veut le bien de nos enfants, on veut, tu vois.
Alors, je rappelle que dans votre film, il y a Éric et Ramzy, Farid, Fabrice Eboué, Joe Star, Omar Sy, Fadila Camara, Vikash Dorasso, Ahmed Silla, Lucien Jean-Baptiste, Claudia Tagbo, Soprano, Lilian Thuram. Mais c'est un film communautariste ou pas?
Pas du tout. Mais déjà, le communautarisme, déjà, je sais pas spécialement ce que ça veut dire, parce que finalement, une communauté, c'est, comment dire, si on dit qu'il y a du communautarisme, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prioritaires et favoris, et à côté, il y a des gens qui font des communautés. Moi, je suis pas dans cet esprit-là. Pour moi, tout le monde vaut la même chose. Vous êtes blanche, moi, je suis noire, et ben, on peut faire une communauté de mecs cool, de gens qui parlent. Non, tu vois ce que je veux dire? Et donc, dire que c'est un film communautariste, ça m'énerve. En plus, parce que, par exemple, je sais pas, moi, il y a Camping qui est sorti il y a quelques années. Dans Camping, il y a que des blancs. Personne n'a dit c'était communautaire. Pourtant, il y a que des blancs dedans.
Mais les thèses indigénistes, racialistes, ça n'existe pas pour vous ? Enfin, y a quand même des gens qui dénoncent le privilège blanc.
Oui, mais je dirais que finalement, tous ces gens-là veulent la même chose, c'est-à-dire l'égalité. Ils veulent être perçus comme français. Parce que quand on entend des gens parler de séparatisme et tout, moi, le séparatisme, j'ai entendu parler de ça quand j'étais petit, avec les Basques, avec les Corses et tout. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est juste des gens qui veulent les mêmes droits, qui veulent pas être confrontés à des contrôles de police, qui veulent pas... tu vois, c'est pas du séparatisme, c'est juste vouloir l'égalité, c'est tout. Et aujourd'hui, moi, je constate, voilà, j'ai 40 ans, je suis noir, j'ai vécu en France, et je constate que j'ai pas eu les mêmes opportunités que certains. Et ça, c'est pas normal.
Alors, votre film est sorti au moment des manifs de soutien à George Floyd aux États-Unis et à Adama Traoré en France contre les violences policières. Vous avez même, je crois, participé à
bien sûr,
à la manif
on
du
était
comité
là,
Traoré.
En force, bien sûr.
Vous avez, dans votre film, vous êtes arrêté à 2 reprises par la police. Ouais. C'est du vécu ?
Bien sûr.
Mais,
bien sûr.
Mais vous irez jusqu'à dénoncer, comme Camélia Jordana, le massacre quotidien d'hommes et de femmes de couleur par une police raciste.
Non, chacun a ses manières de, chacun a sa manière
oui,
de s'exprimer. Elle a ses mots, moi j'ai mes mots. Moi, en tout cas, je sais que quand j'étais jeune, ça m'arrivait beaucoup de me faire contrôler par la police et je trouvais ça normal. Et c'est après avoir grandi, quand j'ai vécu un petit peu et j'ai rencontré d'autres strates de la société, que je me suis rendu compte, mais c'est pas normal, en fait, de marcher dans la rue. Et j'ai une anecdote, par exemple, une fois j'étais à Saint-Lazare, je marchais dans la rue et il y a des policiers qui sont venus me demander mes papiers. Et je sais pas pourquoi ce jour-là j'ai dit non. Ce jour-là, je sais pas, pourtant je suis très docile, normalement je dis oui à tout, ouais, papier, palpation et tout, et ce jour-là j'ai dit non. Et ils m'ont dit, bah, vous allez aller en garde à vue, j'ai dit, bah, emmenez-moi en garde à vue. Et j'ai été en garde à vue, et quand j'ai été dans ma cellule, après j'ai fait beaucoup de blagues au mec qui nous gardait là, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là toi? J'ai dit, ouais, ils m'ont demandé mes papiers, j'ai pas voulu donner mes papiers, et il m'a fait sortir de la cellule, et c'était ma seule garde à vue d'ailleurs. Et avec le recul, je me dis, mais j'ai bien fait de pas donner mes papiers, en fait. Et
pourquoi?
Que bah parce que finalement, il faut pas accepter tout. Moi, j'acceptais tout avant, je pensais que c'était normal, mais en vrai, c'est pas normal. En vrai, c'est pas normal de se faire contrôler dans la rue, t'as rien fait, t'as rien demandé à personne, on te demande tes papiers, et non, c'est pas normal.
Vous, Jean-Pascal Zadi, vous préférez voir Omar Sy jouer une adaptation d'Arsène Lupin ou voir la chaîne HBO déprogrammer Autant n'emporte le vent ou rebaptiser Dix Petits Nègres ?
Alors, débaptiser le livre Dix Petits Nègres, ça me va tout à fait. Et je vois pas qui peut s'offusquer qu'on enlève le mot nègre sur un livre, tu vois. Que Omar Sy joue Arsène Lupin... ça me va très bien, parce que Arsène Lupin, c'est un personnage fictif, tu vois, donc on peut mettre même Bounaïmine si on veut. L'essentiel, c'est d'être français, c'est tout. Et si Omar Sy aujourd'hui, correspond à l'image du français, qui doit, faire ce rôle, et pourquoi il le ferait pas, plutôt? C'est ça la question. Et c'était quoi le troisième truc?
La chaîne HBO qui avait déprogrammé Autant n'emporte le vent.
Oh, qui, alors ça, par contre, ça, je trouve que c'est autre chose. Parce que Autant porte le vent, avec toutes les maladresses qu'il a, c'est un témoignage du passé. Après, il faut, je pense, plus prévenir, expliquer, dire que dans ce film-là, il y a des trucs chelous avec l'esclavage, tout ça, genre c'est bien, mais en fait l'esclavage c'est pas bien. Bon, je sais pas s'il faut le notifier, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut expliquer plutôt que retirer.
Vous avez rêvé de cette nuit de voir Virginie Efira vous remettre un prix ce soir ?
Non, je rêve pas de ça. Je rêve de plus d'égalité. Je rêve que mes enfants grandissent dans une France où ils ont les mêmes droits que tout le monde, où ils auront le droit de rentrer dans des boîtes de nuit sans qu'on leur casse les pieds. Ça, je rêve de ça. Mais avoir un César, c'est, vas-y. Non, c'est cool, mais voilà, c'est pas mon rêve.
Et vous avez fait votre test PCR pour ce soir?
Ouais, je l'ai fait, ouais.
Très bien. Merci, Jean-Pascal Zadi.
De rien.
On vous souhaite le meilleur.
Moi aussi, je vous souhaite le meilleur.
Merci beaucoup. Jean-Pascal Zadi qui est nommé donc ce soir pour le meilleur premier film et le meilleur espoir masculin pour son long métrage Tout simplement noir. Merci d'être venu nous voir. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr et dans un instant, Cyprien Sini surfe avec la tendance capillaire du moment. A tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Alors, c'est le mystère de la matinée. Cyprien Sini surfe sur la tendance, je le cite, capillaire du moment.
Bah oui, oubliez le Covid, le confinement, tout ça, hier matin.
Oui.
6h, 15 minutes, 15 secondes, la rédaction de RTL est sur le pont, quand tout à coup...
Alerte générale !
Une dépêche AFP tombe sur nos téléscripteurs, enfin sur nos écrans. Et là, une dépêche qui tombe à 6h15. Autant vous dire, vous le savez, Yves, qu'on est sur le coup.
Oui.
Je vous lis le titre de la dite dépêche. Attention, accrochez-vous. L'implacable retour de la coupe Mulet. Eh oui, c'est glaçant, je sais, mais c'est l'actu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Court sur le dessus, long derrière, le crime capillaire des années 80 fait la une de l'agence France Presse et du coup... Eh ben on peut pas passer à côté, hein, ça fascine tout le monde.
La coupe Mulet est donc de retour.
La coupe Mulet est revenue en force.
La coupe Mulet.
La nuque longue.
Redevient tendance.
Oui les amis, je crois qu'il faut se faire une raison. L'actu c'est donc la coupe Mulet en ce moment, avec un reportage chez le coiffeur sur BFM TV.
Kevin a franchi le cap, une quarantaine d'euros aussi, pour un petit air rétro.
Kevin s'apprête surtout à prendre un énorme risque esthétique avec une certaine forme de lucidité quand même.
C'est pas une coupe facile à porter.
Non, pourquoi tu dis ça, Kevin? Pas du tout. Après c'est vrai que le porteur de la coupe Mulet a quand même une sérieuse tendance à vouloir se rassurer à tout prix comme il peut. On a le féru d'histoire par exemple.
Dans toutes les cultures et dans toutes les périodes de l'histoire, il y a des coupes Mulet, donc du temps des Égyptiens, des pharaons, le 11e président des États-Unis avec coupe Mulet.
Mais oui, le gars a fait une thèse sur la coupe Mulet. Et alors c'est vrai qu'avec la cellule recherche du surf de l'info, Wikipédia, on a vérifié, le 11e président américain, James Polk, portait effectivement le mulet. Je ne connaissais pas, ça lui va très bien. Autre moyen de se rassurer, bah, se dire qu'on n'est pas seul. Hein.
C'est une coupe de superstars, hein, faut le dire.
MacGyver, tous les joueurs de football.
Ah, les joueurs de football, Chris Waddle, Tony Verrell, bon, et puis surtout. David Bowie.
Ah oui.
Et Pop Ziggy Stardust. Mais alors, il faut préciser que c'était un rôle de composition. Alors, toutes ces stars, d'accord. Mais est-ce que c'est une raison pour...
Return of the mullet.
Accepter ce return of the mullet, ben là, c'est pas certain. En tout cas, toujours soucieux de vous apprendre quelque chose. Vous savez pourquoi la coupe mulet s'appelle la coupe mulet?
Non, expliquez-nous ça.
Eh bien, c'est en rapport avec le poisson, le mulet, mullet, comme on dit en anglais, puisque c'était une coupe de cheveux qui était souvent arborée par les pêcheurs en Grande-Bretagne.
Écoutez, passionnant. Alors, j'ai jamais aimé le mulet, moi. Je trouve que dans l'assiette, c'est pas très intéressant. Mais en revanche, grâce à vous, je viens de découvrir James Polk.
Ah, vous avez vu, il a la coupe mulet.
Ah oui, il avait une belle coupe mulet, le président. Des États-Unis. Bon, la coupe mulet, vous pouvez essayer, vous, Jérôme Florin. Enfin,
non, moi, je merci.
Allez, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et si on parlait vacances d'été?
Oui, il n'est pas interdit se projeter malgré la crise et ses incertitudes. Attention néanmoins aux conditions d'annulation. Nous irons en Israël où un hôpital interdit à ses soignants non vaccinés de travailler. Et puis vous entendrez la joie de Christian Clavier récompensé ce soir avec la bande du Splendide. Il va recevoir un César d'honneur.
La météo, Louis Baudin.
Oui, avec encore des averses aujourd'hui dans la plupart des régions. Quelques éclaircies, des averses plus fréquentes cet après-midi, de la neige en montagne, du vent dans la moitié nord jusqu'à 90 km/h sur les côtes, un peu plus de soleil près de la Méditerranée. Attention au risque d'avalanche dans les Alpes parce qu'il va neiger exactement en montagne. Et puis les températures, elles commencent à baisser. Alors il n'y a pas encore de gelée ce matin en plaine. 10 à 12 degrés dans la moitié nord, c'est 1 à 2 degrés de moins qu'hier. 12 à 14 degrés dans le sud-ouest et 15 à 16 près de la Méditerranée.
Louis Baudin.
RTL Matin.
Et vous, où irez-vous en vacances cet été? Vous avez peut-être commencé à y réfléchir. Comme l'an dernier, d'après les projections de l'INSEE, c'est la France qui devrait être largement privilégiée avec des destinations plutôt nature. Et les professionnels du tourisme ne sont pas tous logés à la même enseigne, comme le montre ce reportage de Patrice Gabart en Bretagne.
À l'hôtel Escale Océania en bord de mer à Saint-Malo, les réservations pour les vacances d'été accusent aujourd'hui une baisse de 60% par rapport à 2019, la dernière saison de référence hors Covid.
Cette année, mon taux d'occupation, en juillet, je suis à 10%, en août, 7%. Les clients s'interrogent sur l'avenir, donc ils ne peuvent pas prévoir. Après, nous, hôteliers, on est très souples sur les conditions d'annulation, etc. On a été obligés à tout niveau de s'adapter.
Martin Kolb, directeur de ce 3 étoiles, pénalisé par les annulations des voyages de groupe qui représentent la moitié de sa clientèle, voit tout de même la lumière au bout du tunnel.
Je ne suis pas inquiet. Les gens auront besoin de consommer, ils auront besoin de s'évader.
Ce que constate déjà Ludovic Godin, gérant du Bois Pastel à Cancale, un camping familial de 250 emplacements qui propose depuis décembre des réservations avec un acompte payable seulement fin mars, et ça marche.
Le téléphone sonne, les réservations tombent et puis on a un nouveau mode de réservation qui vient en fait booster le temps de séjour. C'est-à-dire qu'on avait ces dernières années beaucoup de une semaine, le samedi au samedi, la semaine de location, et c'est le retour des 15 jours voire 3 semaines de vacances. Les gens se fixent sur un endroit au lieu de bouger.
Résultat, ce camping est déjà tout près d'afficher complet pour les périodes les plus fortes au cœur de l'été.
Patrice Gabart, là on le disait dans les titres, vérifiez bien les conditions d'annulation hein, en cas de mauvaise surprise de dernière minute. Écoutez les conseils de Benjamin Dourier de 60 millions de consommateurs.
Il peut y avoir par exemple un professionnel qui va dire annulable pour cause de Covid, mais quand on regarde dans le détail, c'est annulable s'il y a un confinement ou si vous êtes malade, mais pas annulable si la piscine est fermée pour conditions sanitaires par exemple. Et regardez surtout si vous annulez, est-ce que c'est un remboursement sans condition ou est-ce que c'est un avoir qui du coup est beaucoup moins souple qu'un remboursement en bonne et due forme. C'est ça qu'il faut regarder en détail avant de souscrire.
Regardez bien le détail des contrats à propos recueillis par Armel Lévy.
8h03, et où en sera-t-on de la vaccination cet été? La question se pose ce matin.
Fin août, tous les Français qui le souhaitent seront protégés. Voilà ce que disait Olivier Véran, le ministre de la Santé, fin janvier. On est aujourd'hui à 2 millions pour ceux qui ont reçu 2 doses, 4,5 millions une dose. Le gouvernement tente de rattraper son retard, mais encore faut-il que les laboratoires jouent le jeu. On va faire le point avec la brigade RTL. Bonjour Sophie Ranche.
Bonjour à tous.
On le vérifie un peu plus chaque jour, les livraisons du retard. En fait, rien ne se passe comme prévu.
Oui, car les laboratoires ne tiennent pas leurs engagements, notamment AstraZeneca, qui ne devrait fournir qu'un tiers des doses prévues à l'Europe et donc à la France. Sans donner de chiffres précis, le ministre de la Santé a annoncé hier soir peu de doses pour les prochaines semaines, alors que le laboratoire anglais devait livrer plus de 3 millions de doses d'ici fin mars. Olivier Véran reconnaît un manque de visibilité. Thierry Breton, le monsieur vaccin européen, est beaucoup plus cash hier soir sur Twitter. Astra fait des efforts, mais pas au maximum. Le laboratoire doit tenir ses engagements. Moins de doses aussi de la part de Moderna, mais sur des volumes plus faibles. Pfizer va également livrer moins que prévu en avril, 7 millions au lieu des 10 millions prévus. Les volumes restent supérieurs à ce qu'ils étaient en janvier et en février, bien sûr, mais chaque dose compte pour gagner la course contre la montre. Le petit dernier, Johnson & Johnson, ne donne toujours pas de chiffres. 55 millions promis au deuxième trimestre pour l'Europe, mais rien de confirmé. Aucune livraison prévue en France avant fin avril pour ce vaccin en une seule dose.
Est-ce que les labos risquent des sanctions?
Alors, c'est prévu dans les contrats, mais les clauses de pénalité restent confidentielles. On ne connaît pas les détails. Au ministère de la Santé, on tente une comparaison. C'est comme pour le chantier de votre maison. Vous ne payez pas tout tant que ce n'est pas fini. Mais pas question d'aller plus loin. Ce n'est pas le moment de se lancer dans un bras de fer juridique et financier avec les laboratoires, au risque de ne recevoir plus aucune dose et de devoir stopper la campagne de vaccination. Personne n'a envie d'avoir une maison sans toit.
La brigade RTL, signée Sophie Orange. Et puis cette info, ce matin, le français Sanofi annonce le lancement des premiers essais sur l'homme de son second projet de vaccin. Vous le savez, le premier a pris du retard. Alors qu'en France, les soignants traînent des pieds pour se faire vacciner, en Israël, où plus de la moitié de la population est désormais protégée, un hôpital de Jérusalem met la pression sur ses personnels. Vous n'êtes pas vacciné? Eh bien, ne venez pas. C'est le message de la direction de l'hôpital Hadassa, où travaille Ethan.
Alors, nous avons reçu une lettre, en effet, qui expliquait que le personnel soignant non vacciné ne pourrait pas retourner travailler jusqu'à nouvel ordre. Et dans cette lettre, il est stipulé tout simplement que les employés devront prendre sur eux-mêmes, prendre des congés sans solde, le temps de se faire vacciner, etc. Donc, c'est évident que c'est éthiquement pas très acceptable.
Propos recueillis par Stéphane Amar sur place. 80 vacataires de cet hôpital qui refusaient de se faire soigner ont été placés en congé sans solde.
Dans un instant, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Privé de vol, les pilotes en oublient certains réflexes. On en parle vraiment dans quelques secondes.
RTL Matin.
Il est 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. 2020, pire année dans l'histoire de l'aviation.
Avec une chute de 66% du nombre de passagers par rapport à 2019, les fermetures de frontières, les restrictions diverses ont cloué au sol de nombreux avions et ce n'est pas fini. Résultat, les pilotes perdent un peu la main. Alors, rien de grave, mais un rapport note que 7% d'incidents relevés l'an dernier sont directement imputable à la crise, Arnaud Touche.
Oui, il y a par exemple ce pilote qui commence son décollage et qui l'interrompt subitement car il s'aperçoit qu'une indication dans le cockpit est erronée. Il retourne au parking et se rend compte qu'un cache n'a pas été enlevé sur une sonde. Il y a aussi ce pilote qui décolle mais oublie d'allumer les phares. Il met également du temps à rentrer le train d'atterrissage. Il précise qu'il avait effectué seulement 13 rotations sur les 6 derniers mois. Rien d'illégal, mais la direction de la sécurité de l'aviation civile met en garde et indique dans son rapport que le manque de pratique se traduit aussi par le manque d'habileté et des confusions entre manettes. Pour autant, la sécurité des passagers n'a jamais été mise en jeu. Autre exemple, un cockpit a été désinfecté avec des produits virucides non homologués. Résultat, les navigants indiquent que certains écrans sont couverts d'une couche grasse et deviennent illisibles. Des problèmes au sol ont également été signalés, comme la présence de renards qui, en l'absence d'avion, ont pris leurs aises et jouent sur la piste pendant 45 minutes, mais personne pour les faire fuir, faute de personnel. Le but de ce rapport n'est pas de blâmer, mais de prendre en compte ces incidents pour qu'ils ne se reproduisent plus alors que la pandémie continue.
Arnaud Touche.
Chef, on a vu des renards sur la piste.
Oui. Bon. Dans le reste de l'actualité, ce procès aujourd'hui à Albertville en Savoie, près de 4 ans après la mort d'un petit garçon de 7 ans, écrasé par un poids lourd à Belle-Plagne. Le véhicule était garé dans une rue piétonne. Le conducteur avait oublié de serrer le frein à main. Le camion avait dévalé la pente en marche arrière. Plusieurs personnes sont poursuivies, dont le conducteur. Écoutez Claudine, c'est la maman du petit garçon.
Le camion est allé terminer sa course sur mon fils et son grand-père. Et il est passé sous les roues du camion avec son grand-père. J'ai beaucoup de tristesse surtout et beaucoup de colère. Ça n'aurait pas dû arriver. Pour moi, il y a des personnes qui ont pris des décisions à la légère. Quand un camion, un 38 tonnes arrive comme ça sur un site piétonnier au milieu des vacanciers, il y aurait dû avoir une sécurité de mise en place. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible. Ce qui a conduit à la mort de Léo alors qu'il rentrait simplement de l'aire de jeu. Il venait de s'amuser avec sa cousine à l'aire de jeu. C'est ça qui pour moi est super douloureux et inimaginable en fait.
Propos recueillis par Serge Puyot pour RTL. Renault se sépare de la fonderie de Bretagne et de ses 350 salariés. Le groupe automobile plombé par la crise cherche un repreneur pour ce site basé à Codan dans le Morbihan. Les jeunes mamans voient double. Il n'y a jamais eu autant de naissances de jumeaux dans le monde. Depuis les années 80, ces accouchements ont augmenté d'un tiers. Les grossesses tardives et le développement de la PMA expliquent en partie ce phénomène-là.
Toujours pas de réouverture de salle en vue. En attendant, on pourra toujours se consoler avec la 46e cérémonie des Césars ce soir.
En direct de l'Olympia, en clair, sur Canal+, et à suivre dès 20h sur RTL. La salle sera quasiment vide, Covid oblige. Parmi les événements attendus, et ça va faire du bien, un César d'honneur pour toute la troupe du Splendide qui nous a tant fait rire avec les Bronzés et le Père Noël. Christian Clavier avec Stéphane Boutsock.
La dernière fois qu'on a été ensemble au César, c'était en 1978 pour les Bronzés. Il y avait dans la salle Simone Signoret, Yves Montand, Philippe Noiret, Dino Ventura. Donc on était venus, on s'était marrés, c'était bien. Après, je crois qu'on n'est jamais plus revenus, ensemble en tout cas. Je crois que c'est une nouvelle direction de Nakache, les Dano, Marina Fouet, tout ça. Il n'y a pas de raison de leur faire la tête. Il faut aller voir. Mais je pense qu'on prend ça quand même beaucoup à la rigolade avec mes camarades. Et je trouve ça très bien que si ces Césars peuvent devenir véritablement populaires et tous les cinémas, c'est formidable et ils auront réussi leur coup, je suis très content d'eux. Bon, voilà, ils ont envie de nous rendre hommage, j'en suis très flatté, c'est parfait. Mais n'oublions pas que c'est totalement symbolique le fait que nous invite nous cette année où il n'y a pas de public dans les salles. Alors que c'est le public qui nous a fait être là du début à la fin.
Christian Clavier avec Stéphane Boutsock.
Indiscrétion et pronostic à partir de 9h dans Laissez-vous tenter avec Stéphane Boutsock qui nous fera vivre cette cérémonie des Césars ce soir sur RTL. On termine avec l'histoire du jour.
À Hong Kong, les trois hommes qui avaient braqué des supermarchés l'an dernier pour rafler des rouleaux de papier toilette au tout début de la pandémie, vous savez que c'est un peu l'inquiétude du moment, hein. Oui. Ils ont été condamnés à plus de 3 ans de prison. Non.
C'est vrai, ça fait cher le rouleau. Ils avaient dérobé l'équivalent de 183 euros de papier hygiénique. Bon, c'est vraiment maintenant qu'ils en auraient besoin. En prison, c'est d'une denrée rare.
Pourquoi vous avez fait des séjours en prison, vous ?
Non. Non,
non, la pénurie de papier de toilette vous inquiète dans les...
Je sais.
Bon voilà, c'était le journal de Jérôme Florin. Et dans un instant, nous allons nous intéresser aux fake news avec Jean-Mathieu Pernin. Restez avec nous.
RTL. Toujours avec vous. Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Que se passe-t-il du côté des intox, des fausses informations ? On va voir ça avec vous, Jean-Mathieu Pernin. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, Christophe Castaner a-t-il raison en affirmant que depuis 5 ans, les faits rattachés aux bandes sont en diminution ?
Ah oui, alors vous savez, c'est vrai que les chiffres, c'est pratique quand on y pense, hein, mais ça peut être aussi très fragile quand on les manipule. Un exemple, avec Christophe Castaner. Hier, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale était interviewé sur LCI et la première question porte sur les phénomènes de bandes, hein, comme on l'a vu ces dernières semaines en Essonne ou dans la capitale. Et voilà ce qu'en dit Christophe Castaner.
Sur la préfecture de police, c'est la zone de la préfecture de police de Paris où l'essentiel des bandes se concentre. Si vous regardez les chiffres, 2017, 112 faits rattachés à des contentieux de bandes. Et en 2020, on est à 83. Et on sait que l'essentiel du phénomène de bandes est concentré sur l'Île-de-France. Il n'empêche que les violences semblent progresser. Les deux meurtres qu'on a connus dans l'Essonne, oui. Il nous faut apporter des réponses concrètes.
Voilà, il y a donc un sentiment de violence, mais les faits de bandes sont en baisse. C'est étrange, c'est comme s'il y avait un effet bande ressenti en fait. Pourtant, les chiffres donnés par l'ancien ministre de l'Intérieur sont vrais, mais ne concernent que Paris. Et voilà, la préfecture de police de Paris a ainsi recensé 83 phénomènes de bandes à Paris en 2020, comme Christophe Castaner le dit, contre 89 en 2019. Donc en baisse en effet. Pour autant, si on élargit le spectre à l'échelle nationale, 357 rixes ont été recensés en 2020 en France, contre 288 en 2019, ce qui représente une hausse d'environ 24%. L'Île-de-France et sa grande couronne sont particulièrement touchés, on l'a vu, hein, sur 186 affrontements recensés. Eh bien, 99 l'ont été dans l'Essonne, une augmentation de plus 80% par rapport à 2019, et 54 dans le Val-d'Oise, une augmentation de 20%.
Alors, concernant les bandes, il est en fait très difficile d'avoir des chiffres fiables.
Oui, parce que le souci vient de la définition même du problème. Selon la terminologie adoptée par la préfecture de police, constitue une bande tout groupe composé au minimum de 3 personnes, dont la structure peut varier, comprenant au moins un noyau stable. Pour autant, notre la préfecture de police, interrogée par le journal Le Monde, les phénomènes de bandes sont définis comme des événements n'impliquant pas systématiquement des groupes identifiés et répertoriés. Voilà, c'est assez compliqué. Même le préfet de l'Essonne, Éric Jalon, prévient, la notion de bande est à prendre avec prudence. Ce qui donne des chiffres étonnants. Il y aurait, selon Gérald Darmanin, 74 bandes dans l'Hexagone, 70 en Île-de-France, et 4 dans le reste du pays, sans que les départements concernés ne soient nommés. C'est assez étonnant.
Bon, un plan anti-bande devrait voir le jour, en revanche.
Et oui, l'idée est de procéder à un diagnostic départemental du problème pour avoir les chiffres. On nous annonce un plan réactualisé qui devrait être mis en œuvre avant le 1er mai. Ce diagnostic départemental devait arriver avant le 10 mai, avant le 10 mars, il y a donc 2 jours, en fait. Et donc, depuis, on attend.
Bon, bah, je viens de, grâce à vous, de réaliser que Jérôme Florin, vous et moi, on faisait ça forme un noyau.
Exactement, voilà, nous sommes une bande du matin.
On verra pour la suite, absolument. On se retrouve dès lundi avec la bande. Merci Jean-Mathieu. Dans une dizaine de secondes, on va retrouver M. Michel Simès. Vous avez un bon docteur.
RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous adressez aux sportifs, ou plus précisément aux sportifs qui rongent leurs freins pour cause de blessures.
Oui, parce que j'en connais qui disent qu'en ne faisant pas de sport, ils ne risquent pas de se blesser. Sur ce coup-là, bah, ils n'ont pas tort. Mais ce n'est pas très charitable de leur part, car ils n'imaginent pas la détresse du sportif blessé. Ah, ne pas pouvoir bouger quand on a l'habitude de le faire, c'est pénible pour la personne concernée et parfois aussi pour son entourage. Elle n'a qu'une idée en tête, reprendre l'entraînement, et qu'une seule question à vous poser. Quand ?
J'imagine que la réponse varie en fonction de la blessure.
Oui, vous imaginez bien, mais mon propos ce matin, c'est de dire aux blessés qu'il faut reprendre au bon moment, parce que j'en ai vu qui, par impatience, ont repris trop tôt et se sont de nouveau blessés, ce qui a entraîné une période d'inactivité supplémentaire.
Oui. Quelles sont les règles d'or à respecter, Michel ?
Alors, il y en a 4. Primo, quelle que soit la blessure, qu'elle concerne les tissus, les ligaments ou les os, on ne reprend jamais avant d'avoir cicatrisé. Secondo, si le médecin vous parle de rééducation, vous faites de la rééducation. Et surtout règle d'or. Dans la règle d'or, vous faites toutes les séances qui vous sont prescrites. Oui. Beaucoup s'autorisent à écourter l'étape de la rééducation parce qu'ils se sentent mieux et se trouvent suffisamment solides pour reprendre ce en quoi ils se trompent.
Tertio,
toute reprise consécutive à une blessure doit se faire moderato. Allez-y avec modération progressivement, sinon risque de rechute. Quatrième règle d'or, le respect des délais.
Alors, pour le coup, quel délai et pour quel type de blessure, Michel ?
Alors, j'ai envie de vous dire que le bon délai, c'est celui que vous indique votre médecin, mais oui. Je peux quand même vous donner des fourchettes. Une entorse, c'est entre une semaine et trois mois. Trois mois, c'est pour l'entorse grave, celle où les ligaments sont déchirés. Pour la reprise, je conseille le vélo ou la natation plutôt que le tennis, qui est une activité portante et vous expose à la récidive. Le claquage, trois mois. La cicatrisation est lente. Le savoir vous incitera peut-être à surveiller votre fatigue musculaire et à peaufiner votre échauffement, parce qu'un bon échauffement préserve du claquage. Même chose pour feinter le lumbago. Mmh. Échauffez-vous, sinon vous en avez pour 10 jours à 2 semaines avant de reprendre, mais avec beaucoup, beaucoup de douceur.
Merci beaucoup Michel. Rendez-vous dimanche matin à 9h15.
Dimanche matin avec la petite bande pour l'hebdo.
Et lundi avec moi.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
Il est 8h23, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Notre débat du vendredi, vous le savez, nous allons revenir ce matin sur le double débat en fait, qui anime à la fois l'université française, nos grandes écoles, mêlant islamo-gauchisme et assassinat de Samuel Paty. Avec nous, Catherine Tricot, qui est directrice du magazine Regard, et Dominique Régnier, professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Merci à tous les deux d'être présents. Vous avez vous-même, Dominique Régnier, apporté votre soutien à Klaus Kinzler, l'un des deux professeurs de Sciences Po Grenoble, dénoncé et qualifié d'islamophobe. Et expliquez-nous cet engagement.
Ce que j'ai trouvé, moi, de très choquant, perturbant, inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, quelques mois après l'assassinat d'un professeur, vous l'avez rappelé, Samuel Paty, on peut avoir deux universitaires qui se trouvent mis en danger, qui sont, si mon information est correcte, mais je la tiens des journalistes, sous protection policière.
Oui.
Parce qu'ils ont tenu des propos qui sont jugés, sans qu'on sache très bien de quoi il s'agit, qui sont jugés contestables. Ce sont deux universitaires. Et le fait que Klaus Kinzler ne puisse s'exprimer qu'au fond à travers le système médiatique, parce que l'université n'est plus à ce moment-là devenu un lieu de débat, est un signe extrêmement préoccupant. Il faut juste que les auditeurs comprennent que l'université, c'est par construction, sa raison d'être, c'est le débat et la discussion. On ne peut pas se retrouver dans une telle situation sans être très préoccupé pour l'avenir de l'université.
Catherine Tricot, que pensez-vous de cette situation à l'Institut d'études politiques de Grenoble ?
Déplorable. Je pense que c'est absolument affligeant qu'on en soit arrivé là. Vous avez raison de dire que deux professeurs, mais en fait, ce n'est pas deux professeurs, c'est trois professeurs qui sont sous protection policière, c'est-à-dire de part et d'autre. C'est-à-dire que les deux professeurs qui sont accusés d'être islamophobes, et puis la professeure qui a été mise en cause par les deux professeurs, elle-même mise en cause pour islamo-gauchisme. Donc en fait, on arrive dans une situation où tous les camps, maintenant, doivent faire appel à la police pour se protéger. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est arrivé dans cette situation de dégradation inadmissible sans que les autorités ne s'en saisissent. Or, cette situation se dégrade continuellement depuis le mois de novembre avec des alertes, des demandes d'intervention qui ont été faites auprès de la direction de l'IEP Grenoble qui ne l'a pas fait. Donc je pense qu'il y a vraiment un défaut là de pilotage par les institutions depuis le ministre de l'Instruction de l'Université jusqu'à la direction de l'IEP Grenoble qui ne fait que remettre de l'huile sur le feu et envenimer la situation.
On est au-delà de la police de la pensée, on est dans la dénonciation, accessoirement la dénonciation dont on sait, après Samuel Paty, qu'elle peut tuer. Enfin,
Et puis Yves Calvi, moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est on a tous entendu le 16 février la ministre de tutelle, Madame Vidal, souhaiter un examen, une enquête sur l'islamo-gauchisme. Alors, ça a fait beaucoup de bruit, évidemment, chacun en a entendu parler. Moi, ce qui m'a beaucoup préoccupé, comme universitaire, c'est que la ministre de tutelle, c'est quand même celle devant laquelle on doit aussi rendre des comptes. C'est un service public, l'enseignement supérieur à la recherche. Invite à une réflexion, à une recherche sur l'islamo-gauchisme. Et je vois, j'étais tout à fait surpris par ça, je vois le CNRS comme un bloc, sans que les chercheurs aient été invités à un débat, qui publie un communiqué, un texte très court, donc rédigé très vite, qui est une fin de non-recevoir, suivi par la CPU, qui est le Conseil des présidents d'université, et tout un mouvement consistant à dire « Nous sommes des universitaires, le problème que vous voulez examiner, il n'existe pas, donc nous ne voulons même pas commencer à en discuter. » C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut qu'on en discute ensemble pour en connaître la réalité. Il y a des raisons de penser...
Quitte à dire « ça n'existe pas ».
Oui, il y a des raisons de penser que ce n'est pas par hasard. Il y a des éléments. Après, il faut voir l'ampleur de la chose.
Catherine Tricot.
Moi, je pense que c'est un terme infamant. Islamo-gauchiste, ce n'était pas un terme neutre. Elle n'a pas dit qu'elle voulait savoir où on en était des études sur la question de la mise en cause de l'islam en France, par exemple. Elle n'a pas pris des termes neutres. Elle a pris des termes insultants, qui n'ont aucun sens scientifique. C'est pour ça qu'elle a été mise en cause très rapidement, vertement, par les deux grandes institutions que sont les présidents d'université et le CNRS, parce qu'elle nomme quelque chose qui n'a aucun rapport avec le débat scientifique, avec le débat académique et universitaire, avec le débat intellectuel. Là, elle met de l'huile sur le feu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je pense
que... Ce qui vous choque, ce sont les termes employés.
Absolument.
Vous avez bien compris.
Oui, elle n'a pas...
Sur le fond, le débat et la recherche peuvent avoir lieu. Je voudrais votre avis.
Sur le fond, la recherche a lieu. Actuellement, il y a des études diverses en sciences sociales notamment qui essayent de savoir où est-ce qu'on en est de l'influence des études ou les discriminations liées au sexe, au genre, à la race, à la religion. Ces études-là existent. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'islamo-gauchiste? Ça, je regrette. C'est d'entrée de jeu, elle fait quelque chose qui est totalement inadmissible.
Alors moi, je ne pense pas que c'est ce qu'elle visait, l'occurrence la ministre, mais Dominique Reynier.
Oui, oui, c'est pas mon sentiment. Moi je dirais de façon très simple, moi je suis professeur de sciences politiques, l'islamisme comme courant politique, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça existe en France.
Absolument.
D'ailleurs,
et ça se combat.
Exactement. L'extrême-gauche, ça existe aussi. Oui. C'est un phénomène politique. Hein. Il y a l'extrême-droite, il y a l'extrême-gauche, c'est très banal. Qu'il y ait une hypothèse sur les liens entre les deux me paraît recevable, parce qu'on a vu des manifestations de cette association, c'est juste ce point que je voulais, ça me paraît très recevable, et que ce lien est une influence sur ce qui se passe à l'université doit être examiné. Je vous rappelle, vous le savez madame, mais je vous rappelle qu'en 2004, Jean-Pierre Aubin a montré qu'il y avait un problème de ce type, alors sur le versant islamisme, dans l'enseignement secondaire. Depuis, les choses se sont dégradées, elles ne se sont pas, hélas, améliorées, et on voit à tel ou tel moment des mouvements politiques s'associer. Moi, je voudrais juste citer le cas de Manon Le Breton, élu la France Insoumise, chargé de la formation à la France Insoumise, qui quitte la France Insoumise en disant « La France Insoumise ne devrait pas se compromettre avec des personnes prônant un islam politique ». Adrien Quatennens lui-même, indiquant qu'il ne partageait pas toutes les valeurs de tous les participants de la manifestation de novembre 2019, pardon, à laquelle la France Insoumise participait.
Est-ce que ça relève
le nouveau parti anticapitaliste a manifesté avec le CCIF. Enfin, on a quand même des éléments qui sont... C'est un phénomène politique.
Non, mais on a absolument le droit de ne pas être d'accord avec la participation de la France Insoumise à telle ou telle manifestation. Est-ce qu'une ministre de la République peut diligenter des outils de recherche pour pouvoir s'attaquer à ça? Ça, c'est le premier point. Mon deuxième point, c'est que là, en ce moment, on fait un énorme rideau de fumée en disant islamo-gauchiste, c'est-à-dire en fait en associant la gauche à la montée de l'islamisme. Pendant ce temps, on ne dit rien de tout un tas d'éléments qui se passent, qui sont tout à fait structurels. Par exemple, je vous rappelle que actuellement, nous soutenons le Paris Saint-Germain qui court, qui joue sous le drapeau qatari, qu'on a invité le Qatar à venir dans les banlieues françaises pour encourager les jeunes talents à se développer. C'est-à-dire que la droite, au pouvoir en particulier, a ouvert les vannes pour faire rentrer des gens qui sont porteurs d'une... Et là on n'est pas dans de la politique théorique, on n'est pas dans de la pensée, on est dans des actes concrets qui ont été mis en œuvre par des politiques. Et là, on nous raconte que c'est la gauche qui défend l'islamisme. Moi, je regrette. Je pense que la gauche est du côté plutôt du féminisme, plutôt de l'émancipation par rapport à l'emprise des religions, et elle est porteuse de la laïcité. Je n'accepte pas l'idée que la gauche serait liée à la diffusion ou au soutien. soutien à l'islamisme.
Alors, c'est intéressant, parce que là, vous venez de nous dire finalement, oui, on doit peut-être enquêter sur l'islamisme ou sa présence éventuelle au sein de l'université française, si d'une façon ou d'une autre, elle était défendue, mais l'associer à la gauche, c'est ce qui me choque, je vous ai bien compris.
Je dirais pas enquêter. Voilà, je ne dirais pas enquêter. Je suis d'accord pour dire que c'est ça.
L'islamisme n'est pas un mouvement contestataire, c'est un mouvement aujourd'hui très clairement qui encourage des gens qui veulent notre mort.
Ah, c'est un mouvement politique extrêmement contestable qu'il faut combattre, absolument.
Mais, Dominique Reynier.
Sur toute la partie concernant le Qatar, madame, moi je ne connais pas ce sujet précisément, mais je peux tout à fait me retrouver dans ce que vous avez dit. Il y a un problème très très large dans le rapport que nous avons avec les forces qui soutiennent l'islamisme. Là, nous parlons de l'université et de la recherche.
Oui.
Nous devons faire des recherches sur ces sujets-là. Je voudrais juste rappeler, et vous le savez, et je pense que les auditeurs le savent aussi, on fait des recherches sur l'influence des évangélistes aux États-Unis sur Trump. Ça ne choque personne. Bolsonaro a été élu grâce à l'Église évangélique. Ça ne choque personne. J'ai toujours travaillé
sur... Mais qu'on fait des recherches sur la question de l'islamisme, ça ne me dérange pas.
Le catholicisme...
Qu'on fasse des enquêtes, c'est une autre question.
Le catholicisme et son lien avec l'extrême droite ou l'antisémitisme, il y a un lien pour une partie, pas entièrement, mais pour une partie. Oui. On l'étudie toujours. Et donc, moi, j'explique souvent ça à des interlocuteurs, la relation entre l'extrême-gauche et l'islamisme, et même avec l'antisémitisme, parce qu'il y a un lien, ça je l'ai étudié en détail, est un objet qu'il faut examiner.
Mais je ne dis pas qu'on ne doit pas l'examiner, je dis juste qu'il ne faut pas préjuger d'un lien d'acceptation, de soutien de la gauche vis-à-vis de l'islamisme. Ça, c'est totalement diffamatoire.
Une partie de la gauche a beaucoup évolué sur la religion, vous le savez.
Et nous en resterons là pour aujourd'hui. Merci Catherine Tricot, directrice du magazine Regard. Merci Dominique Reynier, professeur à Sciences Po, et puis votre capacité à débattre faisait tout le fondement de ce débat aujourd'hui. Merci infiniment. Dans un instant, la météo à 7 jours avec Louis Baudin. Merci.
RTL Matin.
8h35, la météo à 7 jours, Louis Baudin. Alors, vous venez de me le dire, de l'humidité, du froid, ça se confirme.
Ah bah, exactement, alors on va prendre les choses dans l'ordre. Oui. On l'a dit aujourd'hui, encore un régime d'averse dans la plupart des régions, du vent dans la moitié nord, parfois accompagné d'orages, la neige en montagne, risque d'avalanche dans les Alpes. Demain, c'est une nouvelle perturbation très active qui va traverser toute la France. Donc, de nuages, de la pluie, suivi d'averses avec parfois de l'orage. Le vent atteindra de nouveau les 100 km/h sur la moitié nord. Cette perturbation en arrivant sur le relief va donner beaucoup de neige, sauf tout près de la Méditerranée où là le soleil résistera encore. Dimanche, de nouveau des averses, principalement dans la moitié sous forme de pluie ou de neige à basse altitude. Des 800 ou 900 mètres sur les Vosges, le Jura ou encore les Alpes, on attend des quantités énormes au cours de ces prochains jours sur les Alpes notamment, mais aussi sur les Pyrénées, sur le Massif central. Beaucoup de vent mais du soleil près de la Méditerranée, température en baisse. On aura du mal à dépasser les 10 degrés dans la moitié nord. On sera même en dessous, 10 à 15 dans le sud. Même chose pour la journée de lundi. Donc plus on va vers l'est, plus on a des averses. Plus on va vers l'ouest, plus on a des éclaircies. Même chose près de la Méditerranée, mais parce qu'il y aura du Mistral, de la Tramontane. Petite accalmie mardi. Et puis à partir de mercredi, c'est peut-être, vous savez, mon Moscou-Paris. Là, en tout cas, de l'air froid qui va s'installer. Donc on pourrait retrouver des gelées, des températures largement en dessous des moyennes de saison l'après-midi. Et ça pourrait nous accompagner pour la fin de semaine.
Moi, je pense aux remontées mécaniques et à toute cette neige dont on n'aura pas pu profiter.
La nature le fait exprès, là. Elle joue avec nos nerfs. Hein.
Qu'est-ce qu'on va devenir? Il est 8h37. Allez, merci beaucoup Louis Baudin.
RTL, vous êtes comme ça.
Nous allons vous faire découvrir une petite entreprise familiale du village de Larresor, au Pays Basque. Il est en lice pour le concours mondial des entreprises familiales. Une magnifique reconnaissance pour cette famille qui confectionne avec passion depuis plus de 2 siècles un des objets emblèmes du Pays Basque, le fameux maquila. Ce bâton de marche que l'on offre à de grandes occasions ou à des personnalités. Bonjour Denis Grandjoux.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez rencontré cette famille basque qui peut se targuer d'être la seule en France à fabriquer ce bâton richement orné et qui a séduit le jury.
Oui, courant 2020, Lisa Bergara, qui dirige aujourd'hui la petite entreprise familiale, est sollicitée pour participer à ce concours. Elle s'inscrit au mois de novembre.
Et donc en janvier, on m'appelle pour me dire qu'on est sélectionné dans les 5 finalistes. Donc oui, bah forcément, on a du mal à y croire. C'est une superbe reconnaissance pour l'atelier. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, on espère vraiment que vous allez gagner », mais en fait, c'est déjà incroyable d'être dans les 5.
Une fierté que partage Charles. Il a 94 ans, c'est le grand-père de Lisa. une véritable légende du maquila au caractère bien trempé.
Je ne vous ai pas attendu, vous les journalistes, pour me faire connaître.
Oui, car bien avant ce concours, Charles a parcouru le monde avec ses bâtons de marche.
J'étais chez 160 chefs d'État, en toute simplicité.
Charles, qui après son père et son grand-père, a repris lui aussi l'entreprise au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Non, je n'ai pas repris, j'ai continué. 95 ans dans quelques jours et bon.
Moi, tu travailles toujours, tu dis que t'arrêtes. Il continue à travailler le cuir, il va dans la pépinière travailler le bois. Il a trouvé une autre place, en fait.
Moi, je ne peux pas rester 10 minutes sans travailler.
Vous n'avez pas lâché l'affaire?
Non.
Oui, car le maquila est vraiment dans l'ADN de la famille Bergara depuis 7 générations.
Bien justement, Denis, parlez-nous en détail de ce bâton de marche. Un emblème du Pays Basque, vous le disiez, on est loin du bout de bois qu'on ramasse dans la forêt. Hein.
Alors d'abord, le mot maquila, en basque, ça veut dire bâton, c'est tout simple. Trois éléments indissociables entrent dans sa fabrication, le cuir, le métal et le bois.
Pour le bois, on travaille du bois de néflier qu'on va scarifier sur pied. Ensuite, on va attendre 6 mois environ. On va le couper, l'écorcer, le redresser et ensuite le mettre dans nos greniers à sécher une dizaine d'années. Sachant qu'au cours de ces 10 ans, intervient le processus de coloration qui est un processus qu'on garde secret dans la famille.
Chaque maquila est vraiment unique, il est fait sur mesure. On a coutume de dire que sa longueur équivaut à celle du bras qui va le manipuler.
Le maquila, c'est un bâton qui va se caler dans le creux de la main qui est assez bas. Et on va le balancer et c'est ça qui va faciliter la marche. Chaque artisan aussi à l'atelier va mettre sa patte. Venez rencontrer les artisans qui ont travaillé dessus, c'est un moment particulier. Et nous, c'est aussi une des choses qui fait qu'on adore ce qu'on fait, quoi. Beaucoup de gens décident de venir le chercher à l'atelier. C'est-à-dire que nous, on peut l'expédier, mais souvent, la commande d'un maquila, c'est pas, on n'est pas sur Amazon, quoi. Vous avez maturé votre commande, la petite phrase qu'il faut marquer dessus, qui sera traduite en basque. Nous, on cultive le temps à l'atelier. Hein. C'est pour ça que c'est bien aussi de travailler de génération en génération.
Ah, elle est formidable. Et je l'ai choisie au berceau. Si vous imaginez dans l'instinct que j'ai.
Il a raison, votre grand-père, vous êtes fait pour ça, non?
Ah, je ne sais pas. Coïnes vetivan.
Et un magnifique chant basque pour terminer. Merci beaucoup Denis Grandjou. On croise les doigts pour que cette famille d'artisans décroche ce titre de plus belle entreprise familiale du monde.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
8h41, ce matin, Isabelle Choquet, direction Marseille, où la facture de l'hydroxychloroquine a bien du mal à passer.
Oui, c'est une grande enquête de Libération qui a été alertée par des patients de l'IHU, l'Institut du professeur Didier Raoult. Il y a d'abord Claude, 44 ans. Il y a un an, presque jour pour jour, le 15 mars, il ressent les premiers symptômes du coronavirus. Fatigue, courbature, il a perdu le goût et l'odorat. Après 2 mauvaises nuits, il décide d'aller se faire tester. 2 jours plus tard, l'IHU le rappelle, il est positif au Covid-19. On lui propose alors d'être pris en charge et on lui demande de revenir le jour même. Là, nouveau test PCR, consultation avec un médecin, un électrocardiogramme et il ressort aussitôt avec une ordonnance d'hydroxychloroquine. 4 jours plus tard, Claude revient pour un test du goût et de l'odorat, une nouvelle PCR, un autre électrocardiogramme. Le surlendemain, ses prises de sang, puis une dernière consultation le 29 mars. À l'arrivée, Claude s'en sort sans séquelles. La chloroquine, il n'en pense rien, mais il n'a que du bien à dire sur le personnel de l'IHU. Bref, une très bonne expérience. Jusqu'à la facture, courant novembre. Oh. Quelques dizaines d'euros pour sa première visite, puis 1264 euros pour les suivantes, soit 3800 euros au total. Claude appelle immédiatement la comptabilité. La dame au bout du fil avait l'air très gênée, dit-il. Elle m'a expliqué que je n'avais pas à payer l'intégralité, seulement la part mutuelle. 758 euros quand même. Oui. Si vous avez une mutuelle, c'est totalement pris en charge. C'est ce qu'elle m'a dit pour tenter de me rassurer. Mais j'étais quand même très étonnée. À aucun moment, on ne m'avait dit que ça coûterait des sommes pareilles. La dame a soupiré et elle m'a dit « Oui, je comprends, monsieur, vous n'êtes pas le seul. Nous recevons beaucoup d'appels. » Claude a été remboursé, mais Florian a vécu la même mésaventure et lui, il n'a pas de mutuelle. On nous parle d'hospitalisation de jour, dit-il, mais en fait, la prise en charge dure 10 minutes pour faire les prises de sang, 3 minutes 30 pour faire l'électrocardiogramme et 5 minutes la consultation pour la délivrance de l'hydroxychloroquine. Et voilà, le reste, ce n'est que de l'attente dans les couloirs. L'hospitalisation de jour, c'est courant, mais il faut qu'il y ait une batterie d'examens dans la journée, une chambre, un lit, une collation à midi. Sinon, ce sont des consultations externes, 54 euros pour un test coûte à peine 40 euros pour un électrocardiogramme. Oui. On est loin du compte. Alors c'est vrai, au départ, la chloroquine devait être prescrite à l'hôpital. Mais à Marseille, le recours aux hospitalisations de jour a perduré, et pas qu'un peu. L'IB s'est penché sur les chiffres sur toute la France. Sans surprise, en 2020, les hospitalisations en court séjour pour infections respiratoires ont bondi, mais avec de grosses disparités régionales. Dans le Grand Est, elles ont été multipliées quasiment par 10. En Île-de-France, par 14. À l'assistance publique hôpitaux de Marseille, on est passé de 47 hospitalisations à plus de 23 000, soit 491 fois plus.
Ça fait beaucoup.
Oui, exactement. Autre enseignement, en région PACA, 98% des hospitalisations courtes sont des hospitalisations de jour. À l'IHU, on assure qu'il n'y a pas eu d'enrichissement. À la PHM, on indique qu'il n'y a pas eu de surcoût pour la Sécu, car le reste des activités était en très nette baisse. Et puis on précise que des demandes de remises gracieuses sont en cours d'étude pour les patients sans mutuelle.
Gentil.
Reste, n'est-ce pas, reste une facture astronomique, 25 millions d'euros selon les calculs de l'IB, à la charge de la Sécu, des mutuelles et des patients sans complémentaires. Claude n'en revient toujours pas. Comment peut-on proposer un traitement expérimental en expliquant que c'est un vieux traitement très peu cher, en faisant passer les autres médecins pour des rapaces avides de l'argent des laboratoires, quand cette prescription génère des dépenses aussi importantes? La facture de la chloroquine, c'est une grande enquête à lire absolument dans Libération aujourd'hui.
Merci beaucoup, c'était passionnant. On se retrouve lundi matin.
Avec plaisir, bon week-end.
Merci Isabelle. Dans un instant, on retrouve toute l'équipe de l'Orangère.
9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Bonjour Monsieur Gérard.
Bonjour Monsieur Calvi.
Bonjour Mademoiselle
Oui,
Jeanne.
Soyons sérieux. Oh là, bonjour soyons Monsieur Calvi. Je crois que Pascal Praud voudrait profiter du micro pour poser quelques questions à nos auditeurs. Allez-y Pascal.
Bonjour à tous et à toutes. Voici les questions du jour au 32-10. Le logo des JO 2024, vous l'avez vu ?
Oh oui.
D'après vous, que représente-t-il ? Une tache ? Une femme ? Un pubis poilu ? Ou la flamme du Rassemblement National ?
Un peu les trois, non ?
Oui, un peu... Ou un peu les trois, merci Yves. Je pose la question au 32-10.
Très bien, très très bien, c'est noté Pascal. Mm-hmm.
Question suivante, si le logo des JO est bien une femme, pourquoi les hommes, les trans et les sans opinion sont-ils exclus? Et pour les Jeux paralympiques, faudra-t-il rajouter deux roues de chaque côté? Je pose la question au 32-10.
Parfait, alors encore un joli sommaire pour les auditeurs, ont la parole tout à l'heure.
Et surtout, nous répondrons aussi à la question d'Éric Zemmour.
Oui.
Pensez-vous, comme Éric Zemmour, qu'en 2024, la Marianne de la médaille sera voilée, ainsi que toutes les athlètes, et que les épreuves d'équitation seront remplacées par des courses de chameaux? J'attends toutes vos réponses au 32-10. Vous avez hâte, non?
Oh bah oui.
Ah, on y sera. Bon, peut-on rire du coronavirus? La réponse est oui.
Bah oui.
Beaucoup de parents se sont mis à télétravailler en compagnie de leurs enfants. Michel Chevalet, en expert, nous a tout expliqué.
Un enfant, comment ça marche? À 8h du matin, jusqu'ici, vous le laissiez à l'école, faisant mine d'être très malheureux pour ne pas le vexer. Alors que dans votre tête, c'était la fête. Avec le coronavirus, la fête va se transformer en cauchemar.
Mais c'est-à-dire?
Ben, tandis que vous tenterez de travailler, l'enfant, lui, vous sollicitera pour jouer aux petites voitures ou à la poupée. Après quelques refus polis, il se mettra à hurler, vous contraignant à le coller devant des dessins animés à la télé sur Gulli.
Oui, alors c'est une idée, mais peut-être pas la meilleure. Hein.
En effet, car travailler avec en fond sonore les voix de Dora l'exploratrice et Bob l'éponge, c'est tout simplement impossible. Alors, vous éteindrez donc la télé et l'enfant se mettra alors à nouveau à hurler.
Bon, il n'y aura pas de trêve ?
Si, au moment du repas de midi, une trêve de 27 secondes jusqu'à ce qu'il découvre que vous n'avez pas fait de frites et qu'il se mette encore à hurler.
Les Français vivent confinés, mais certaines règles restent encore un peu floues à leurs yeux. Éclaircissons les points les plus obscurs avec nos amis, les déchiens.
Ah 36-15, conne qui n'en veut du confinement, avec aujourd'hui mon gars Bruno Lochet, confiné. Bonjour mon gars, Bruno, comment t'appelles-tu?
Bruno.
Alors moi Bruno... Quelle est, parce qu'elle a beaucoup de questions, hein. Oui. Quelle est ta question?
Je voudrais savoir, sur l'attestation de déplacement dérogatoire, on peut cocher la case pour aller travailler, la case pour faire ses courses, la case pour aller chez le docteur, et la case pour faire du sport. Mais elle est où la case pour aller aux putes?
Oh là 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 là. Alors tu vas très loin, Bruno. Mais c'est un petit coquin, ce Bruno-là. Hein. C'est un gars qui fréquente des pérépatas, des pérépités, des pérépipis, des pérépés.
Ah, hein, péripatéticiennes.
Merci, M. Calvi. Oh, ben, les péripatés, on voit l'habitué. Hein.
Les péripatés. Ben voyons.
Mais dis-moi, mon Bruno, pourquoi que tu veux aller voir des péripatéticiennes alors que tu es confiné avec Madame, Madame Locher à la maison?
Jolie femme.
Parce que à chaque fois que je la touche, elle me dit qu'elle a la migraine. Et vu que mon pharmacien il est en rupture de stock de paracétamol, je suis obligé de la croire.
Oui.
Je comprends, mon Bruno. Alors, mon Bruno, moi, je dis que si tu coches la case faire du sport, hein, ça devrait marcher, parce que la bagatelle, c'est un peu comme qui dirait ce qu'on appelait jadis du sport en chambre. Hein. Ah ben non, là, c'est dans une camionnette. Oui, ben, chambre camionnette, ça reste du sport, hein, mon Bruno. Par contre, je compte sur toi pour bien respecter les règles d'hygiène et nettoyer ton engin avec du gel hydroalcoolique avant et après le rapport camionnette. Et un masque. Est-ce que tu en as un masque?
Ben, à la pharmacie, ils sont en rupture de stock, mais j'en ai fabriqué un avec mon slip.
Oh non.
Et ben, je vois.
C'est pas possible.
Ah, c'est très saillant, oui, en effet. Nous sommes à la radio, nous n'avons pas l'image, hein, mais c'est très saillant, hein, ce slip-là. Je vois que tu as pensé à tout. Alors, amuse-toi bien, mon Bruno. Qu'as-tu dans ton palier? Une poulette. Qu'as-tu dans ton palier? Une poulette en camionnette.
Wow! Ben alors.
Patrick Sébastien, alors ce confinement, ça se passe bien?
Ouais, j'adore. Parce que tu vois, ma Jade, sous le costume bariolé du saltimbanque qui donne du bonheur aux gens, il y a un philosophe. Et ce philosophe, il a un super pouvoir qui lui permet d'aller bien tout le temps. Même en période de confinement, c'est important.
Ah bon? Mais comment vous faites, vous?
Ok, bah, je vais te le dire, puis je vais le dire à tous les auditeurs, parce que je suis bienveillant et altruiste. Et je vais te donner mon secret, parce que tu vois, ma Jade, dans la vie, j'ai croisé beaucoup de pourriture.
Ah.
Mais toi, t'es une belle personne, et tu mérites de le connaître. Alors, écoute bien, un homme heureux est un homme qui sait transformer les épreuves de la vie en opportunités pour avancer.
Waouh, c'est fort.
Ouais. J'ai lu ça ce matin dans Philosophie Magazine au cabinet, j'ai trouvé ça hyper puissant. C'est une citation du Tibétain avec une tête de cul et une robe en rideau de douche. Là, comment il s'appelle déjà?
Le
Dalai Lama. Putain, un grand bonhomme, le Dalai Lama. Bref, j'ai décidé que ce confinement, comme beaucoup de Français, j'allais en faire une expérience positive en suivant les conseils du Dalai machin, là, c'est-à-dire, accroche-toi, en me reconnectant avec mon moi intérieur.
Ah, intéressant.
Oui.
Et comment vous comptez vous y prendre, vous? Parce que c'est ça.
Alors justement, c'est ça qui est chiant avec le Dalai bidule, là. Il balance des trucs au pif, mais il donne jamais la méthode. J'ai bien essayé de me mettre un doigt dans le cul, mais... Mais mon moi intérieur, ça l'a pas fait réagir. Du coup, qu'est-ce que tu veux, je cherche.
Ah bah oui, au moins, ça fait drôle dans votre bouche. Mais vous savez, Patrick, le plus important, ce n'est pas le résultat, c'est la quête.
Oh putain, c'est super fort ce que tu dis là, ma Jeanne. J'adore. J'ai toujours su que sous le poncho de l'animatrice radio qui fait poète-poète quand on lui dit camion, il y a une personne bienveillante qui donne du bonheur aux gens. Toi et moi, on est pareil. Du coup, même si j'aime pas trop les gonzesses qui me donnent des ordres, je vais suivre ton conseil et me concentrer sur ma quête. Et si j'en ai deux, ça me fera une caquette. C'est que de l'amour.
Bah alors, merci à toute l'équipe, je crois qu'on a fait un point très important. Entre autres choses agréables, on vous retrouve pendant le week-end à 6h15 avec Jean-Mathieu Pernin, à 7h50 avec Stéphane Carpentier, en permanence sur le site rtl.fr et dès lundi matin en direct sur cette merveilleuse antenne. Dans un instant, le chef Lignac est à mes côtés à l'occasion de la soirée des Césars. Va nous proposer quoi? Une salade?
César! Ah, quelle originalité!
Mais non, c'est merveilleux. César salade with Cyril Lignac. À l'anglaise, allez. Tout.
RTL. Toujours avec vous.
RTL Matin, Yves Calvi.
8h58.
cher Cyril Lignac. Ce soir, il sera question des Césars, mais ce matin, vous voulez mettre les choses au clair concernant la salade César. C'est ça l'information sur RTL. Alors allez-y.
Alors on y va, parce que la César salade, c'est quand même un tout petit peu délicat. C'est une émulsion. Donc on démarre toujours avec un œuf dur et un jaune d'œuf que l'on mixe dans un petit...
Un œuf dur plus un jaune d'œuf.
Exactement, puisque c'est une émulsion, un peu comme une mayonnaise. On doit avoir cette sauce onctueuse, donc on met un œuf dur et un jaune d'œuf. On ajoute de la pâte d'anchois. On mixe avec de l'ail et du parmesan râpé. Donc là, on a vraiment le goût de l'anchois, de l'ail, du parmesan râpé. On ajoute du vinaigre de vin pour avoir l'acidité. Moi, je rajoute toujours un petit jus de citron.
Petit peps.
Voilà, encore plus de peps, parce que c'est une sauce qui est quand même assez grasse. Et ensuite, on ajoute 7 centilitres d'huile. Alors, moi, je mets de l'huile d'olive. On peut mettre de l'huile d'arachide aussi. C'est un peu comme on veut. 50 grammes de crème liquide pour l'onctuosité. Et bien entendu, un peu de Worcestershire. Sauce anglaise.
Non, oui, Worcestershire sauce.
Voilà,
monsieur Calvi. Vous embêtez à essayer de le prononcer quand vous êtes dans un restaurant en Angleterre. Vous dites Worcestershire sauce.
Et un peu de tabasco. Et on sale. On émulsionne tout ça.
Vas-y.
On le met de côté. Et alors moi, ce que j'aime pour la César salade, c'est la salade romaine, c'est-à-dire la longue, avec une côte bien croustillante. Et donc, je la lève et je me garde la grande longueur de la salade. À l'intérieur, je mets du poulet, des croûtons, on peut rajouter un peu d'œuf dur, et par-dessus, je dépose délicatement de la sauce, et en fait, je la pose, la salade entière, au milieu de la table. Et vous n'avez qu'à couper... Et en fait, chacun se sert comme un gâteau de son morceau de salade. Alors, on a cette solution-là, où on peut aussi tout couper à l'avance, mélanger, bien entendu, avec des croûtons, du poulet rôti, je vous dis, un peu d'œuf, des câpres. Et ensuite, la sauce, ça marche très bien. Alors, cette sauce de César salade, je m'en sers aussi, par exemple, quand c'est la saison des tomates, pour assaisonner un petit peu des tomates, une belle salade d'été. C'est pas uniquement que pour la salade.
Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Bon, on râpe un peu de parmesan aussi.
Exactement. Et surtout, on met de la...
Worcestershire sauce. Et la vie est belle.
Merci, monsieur Calvi.
Merci. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Point sur l'actualité avec Jérôme Florin.
Après le Danemark, la Norvège, l'Italie, la Thaïlande annoncent ce matin le report de sa campagne de vaccination avec l'AstraZeneca qui pourrait être à l'origine de la formation de caillots de sang, même si de rares cas ont été signalés. En France, les autorités se veulent rassurantes, le bénéfice est supérieur au risque, dit Olivier Véran. Sanofi annonce le lancement des essais sur son second projet de vaccin. Le premier a pris du retard, le groupe français espère le vendre à la fin de l'année. Les services de réanimation saturés en Île-de-France, on est proche du niveau du pic de la deuxième vague mi-novembre. Des dizaines, voire des centaines de patients vont être transférés dans l'Ouest, moins touchés par l'épidémie. Et puis, l'équipe de France de handball qui joue sa qualification pour les JO de Tokyo avec un premier match ce soir contre la Croatie. Ce sera 21h. Les Bleus partent favoris après avoir atteint les demi-finales du dernier mondial.
Merci Jérôme, à lundi.